Hello, Sunil Patel here. This is a set performed by me at the Cavendish Comedy Club in London.
Hello. So I get the idea of saving as well. You're supposed to like make good decisions now for your future self, but like I just don't think that guy deserves it. Like, what's he done for that? He hasn't earned that money. I've earned that money. He's done nothing for it. I've earned that money, so I'm going to keep it because I like nice things.
Well, here's a message from your future self. It's easier to save if you do it the day you're paid. Payday Save Day. Building a society of savers nationwide.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Scouse.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'after comme tous les soirs jusqu'à minuit du lundi au dimanche. L'after, la seule émission de radio en France en direct 7 jours sur 7, à suivre à la radio sur RMC et à la télé sur RMC Sport News. De plus en plus de téléspectateurs nous regardent également à la télévision parce que le vendredi soir c'est l'after de
élégance,
évidemment, en t-shirt,
des t-shirts blancs,
voilà. Comme le samedi soir. Le 32-16 est ouvert, bien sûr. Réagissez, les supporters marseillais, bordelais, Nantais également, non. Messins, Dijonais, toutes les équipes qui ont joué aujourd'hui sur la 6ème journée de Ligue 1. Le hashtag RMC Live est ouvert également. Bonsoir Ludovic Obraniak.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Jonathan Macardy.
Salut les gars.
Beaucoup de commentaires évidemment sur le combat qui se profile en décembre prochain. On va pas en faire tous les soirs, mais le fight Obraniak. Comment tu dis
Obraniak
ouais. Entre Mac.
Je sais même pas ce qu'ils m'ont mis, je sais plus.
Joe le Hardy, voilà, c'est très bien.
C'est mieux.
Joe le Hardy
Iron,
pour le
Iron Mac, non?
Iron Mac, ouais. Exactement. Messieurs, le sommaire ce soir de l'after, bien sûr. On est ensemble jusqu'à minuit. On aura toutes les drôles de dames réunies pour débriefer les résultats en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, bien sûr, avec un énorme 8-0 de City qui s'est vengé de sa défaite la semaine dernière. Un gros Bayern encore avec un doublé de Robert Lewandowski, qui est meilleur buteur européen cette saison pour l'instant. Je crois qu'il a 11 buts en 7 matchs. C'est une folie, Robert Lewandowski. Le derby milanais, on en parle dans un instant. Mais d'abord, bien sûr, la Ligue 1 et notamment le match nul de Marseille. Vos 3 points, messieurs, c'est parti. Jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Soit l'essentiel, c'est le plus important. Ouais.
Mais d'abord, je rappelle tous les scores de la soirée en Ligue 1, bien sûr, messieurs. Avec donc Marseille, tenu en échec à domicile en fin de journée par Montpellier, un but partout. Victoire de Nice face à Dijon, 2-1. Nul entre Bordeaux et Brest, 2-2. Victoire de Nîmes, importante, face à Toulouse, 1-0. 0-0, le point de la convalescence pour l'AS Monaco sur la pelouse de Reims. Et la victoire, on va parler de Lucas Elsner et le travail qu'il fait à Amiens.
Ouais.
Amiens qui s'impose 2-1 sur la pelouse, Ludo, du FC Metz. Tes 3 points, Ludo.
Commencer par le match de 17h donc de l'Olympique de Marseille et j'ai mis Marseille dans le vrai parce que ils ont fait un vrai bon match dans l'intensité, dans les intentions, dans le pressing, dans plein de choses. Alors il y a manqué quelques trucs, on en reparlera tout à l'heure et c'est vraiment quelque chose qui leur fait défaut, mais en tout cas j'ai aimé ce qui est tout doucement en train de se mettre en place du côté de l'Olympique de Marseille et notamment ce qu'insuffle Villas-Boas, si ce n'est les débordements de fin de match.
Tu les sens les 3 points qui
débordent, il a oublié.
Non, Bordeaux à mi-temps, c'est la première fois que je comprends pas ce que fait Paulo Sousa.
Ok.
Et puis Amiens, voilà. C'était bien de parler aussi d'Esner parce que c'est un coach inconnu au bataillon. Et alors, même si l'Union Saint-Gilloise est un grand club belge, lui, on ne le connaissait pas beaucoup. Et ce qu'il fait, c'est plutôt agréable à suivre.
C'est la dernière fois. On va arrêter les 3 points, je pense, comme Gilbert l'avait fait la saison dernière. Jonathan.
Bon, le premier point, c'est je voulais mettre en honneur aussi ce que fait Amiens. Donc Elsner est arrivé, on savait pas qui il était, et puis là, il a changé quand même 2-3 choses par rapport à Christophe Pélissier, notamment le système en 4-4-2. Là, il joue en 4-2-3-1. Il a des tuiles qui lui tombent sur le coin de la tronche avec la blessure de Konaté, la suspension de Godos, et c'est quand même en train de se mettre en place. Donc chapeau à lui. Le deuxième point, c'est Nice. Nice avec une défense centrale totalement folle, sans ses cadres derrière, qui quand même arrive à gagner avec sa puissance de feu offensive. Et le troisième point, le match nul de l'Olympique de Marseille. Je pense que Marseille a fait un bon match, mais mais que Villas-Boas s'est totalement planté dans sa lecture du match.
Ah, pour la première fois, tu m'attaquais à André Villas-Boas. Messieurs, on démarre tout de suite.
On ne sera pas d'accord là-dessus.
Ah ben justement, c'est bien. Point de débat, les trois points qu'on développera bien sûr dans l'after. On est ensemble jusqu'à minuit. C'est parti, messieurs, on va démarrer par évoquer le co-leader de Ligue 1 ce soir, qui rejoint le Paris Saint-Germain en tête avec 12 points. Le début d'un nouveau projet qui commence bien, celui de Nice. Nice qui s'impose 2-1, Nice à réaction. Hein. Dijon avait ouvert le score grâce à Tavares. Dijon, bon, voilà, on va en reparler également. Oui.
Comme quoi, ça se joue à rien. Hein. Suffit de chourer une montre dans un vestiaire et puis tout.
Tu réveilles tout le groupe.
Et puis tu réveilles ton attaquant et puis tout va mieux.
Dolberg égalise exactement à la 29e, 7 minutes plus tard. Et puis Youssef Attal, un but somptueux, la frappe pied droit sous la barre transversale de Youssef Attal, international algérien. Nice co-leader avec le PSG, deuxième à la différence de but avant le match du PSG à Lyon, dont on parlera également. La composition probable du PSG à venir dans un instant.
C'est une vraie surprise.
Le match à Lyon.
Bien de le noter,
Ludo.
Parce que Nice ont. Enfin, sur le début de saison, on imaginait, avant que les recrues arrivent, on imaginait Nice en grand, grand, grand danger. J'imaginais même, moi, en train de flirter avec les trois dernières places avant que le propriétaire ne signe.
Ah ouais, carrément.
Ah ouais, non, mais attends, tu te rappelles les matchs amicaux? Tu te rappelles, dans quel contexte ils ont attaqué le jeu?
Oui, mais tu te rappelles Vieira qui a fait des merveilles avec un effectif limité.
Mais je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je suis bluffé, surpris. De faire aussi bien avec aussi peu ce qu'il avait. Enfin, maintenant, ça commence à être.
Oui, mais c'est récent.
Ça commence à être. Il y a de la matière, là. Ça commence à être mieux. Et encore, il va y avoir encore le mercato d'hiver pour pouvoir se renforcer. Mais en tout cas, Patrick Vieira fait un boulot exceptionnel.
Sur ce match-là, très franchement, donc Dijon marque un petit peu, on va dire, contre le cours de jeu. Heureusement pour eux d'ailleurs au passage d'avoir récupéré Tavares, parce qu'on voit que c'est vraiment leur seule arme.
C'est lui qui met les deux buts cette saison pour Dijon. Hein, deux buts seulement marqués.
Sans lui, c'est pas la même limonade comme la semaine dernière. Après, en revanche, du côté de Nice, moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un match sérieux. Alors effectivement, pénalisé par toutes ces nombreuses blessures derrière. En plus, en cours de match, t'as Racine Colli qui se blesse. Voilà, vraiment pas de bol derrière. T'es obligé de bricoler en mettant le petit Nsoki en charnière centrale. C'était vraiment, ça respirait pas la sérénité. Mais toujours pareil, quand on analyse les matchs de Nice, ce qu'on remarque, c'est une maîtrise collective. On remarque que c'est huilé au milieu du terrain, que ça joue bien. Et là, maintenant, la donne qui a vraiment changé, c'est que comparé à la saison dernière, c'est qu'enfin il y a des gens pour mettre des buts devant et pour mettre le feu. T'as l'arrivée de Vounas, t'as l'arrivée de Dolberg, t'as Claude Maurice qui montre deux trois choses.
Mais là où
ce qui est intéressant de constater, c'est que l'année dernière c'était un projet en construction, il manquait juste un petit ingrédient de l'efficacité. Et là, si maintenant ils arrivent à combiner les deux, à savoir de la maîtrise collective et l'efficacité, on peut attendre des belles choses.
T'oublies un troisième point, la complicité. Parce qu'il y a une complicité qui est en train de se créer entre les trois de devant.
C'était pas criant la semaine dernière.
Non, mais
Vounas a du mal à trouver Dolberg. C'est normal.
Il venait d'arriver, donc. Mais force est de constater que ce soir, que ça soit avec Attal ou Vounas, ça a plutôt bien marché. Donc
après, est-ce qu'il
fait un choix au milieu aussi de mettre un jeune plutôt que Tamézé. Attal c'est quand même assez culotté. De le faire passer d'arrière droit à attaquant côté gauche.
Il préfère partir de plus loin à Attal. Jouer latéral droit pour couvrir le couloir.
Je pense que c'est surtout peut-être conjoncturel et lié aux nombreuses absences en défense centrale. T'as une défense qui est pas très très sûre. Attal, c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts, mais qui défensivement, même s'il est coruscant, balle au pied, et offensivement, c'est pas non plus lui qui apporte le plus de garanties défensives. Donc je pense que c'est un choix conjoncturel. Quand il va récupérer sa charnière, je pense qu'il le remettra latéral.
Il y a un joueur qu'on cite
tout
pas.
Tout ça sans RL et Dante.
Il y a un joueur qu'on ne cite pas depuis le début de la saison, mais qui pour moi a un rôle majeur dans la reconstruction de l'OGC Nice. Alors il a eu une période difficile parce que il me semble qu'il a été blessé. C'est Lesmelou.
Lesmelou. Moi, j'avais en tête plutôt William Cyprien.
Ouais, les deux. Lesmelou. Il a eu un passage à vide en fin de saison dernière. Il a pu faire une préparation correcte et il est en train de revenir plein pot.
Mais pareil pour Cyprien.
C'est un joueur qui a une telle qualité technique. Franchement, il rayonne sur le jeu niçois, et Cyprien aussi, on peut le citer. Et moi, j'ai une sensibilité particulière avec Lesmelou. Parce qu'aussi, quand j'étais à Bordeaux, il était en division très inférieure. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui a un parcours
formé aux Girondins,
qui a un parcours atypique. Donc,
dans ces Girondins,
leur trouver
les à Bordeaux qui n'ont pas joué à Bordeaux. Hein,
leur trouver à cet âge-là avec une certaine régularité, ça m'émeut un peu.
Il y a un truc qui est quand même à noter, c'est. Alors, on va parler du match OM Montpellier et des choix de Der Zakarian, mais c'est quand même que Vieira joue avec un milieu Cyprien, Lesmelou et Luzomba. C'est quand même trois joueurs plutôt offensifs que défensifs. Ouais.
Quentin au 32-16 nous a appelé supporter du gym de l'OGC Nice. Salut Quentin. Quentin, est-ce que tu es avec nous, Quentin?
Oui, je suis avec vous. Vous m'entendez bien?
Oui, bienvenue dans l'after, Quentin, bien sûr. Bon, mais t'es co-leader de Ligue 1 ce soir, déjà.
Ouais, ça fait plaisir. Après, le classement est toujours, toujours anecdotique, mais ça fait plaisir de voir de matchs ce soir, surtout en première mi-temps. C'est vrai qu'on a eu, on a maintenant la possibilité d'avoir un attaquant comme Dolberg qui est vraiment surprenant, tellement il est précieux dans son jeu de haut but, etc. Puis face au but, c'est un tueur, clairement. J'ai été assez surpris par le match de Lusamba aussi, qui a fait un très bon match. Ouais. Et moi, je voulais juste surtout intervenir par rapport à une chose pour changer un petit peu des supporters de d'habitude. C'est surtout par rapport à, même à Twitter, aux réseaux sociaux, etc. Par rapport aux gens qui critiquent Zira, les supporters niçois, les coachs du canapé, etc.
Mais comment on peut le critiquer?
Mais j'ai pas le sentiment que, qu'il est vraiment critiqué.
Je pense que Jonathan le sait aussi.
C'est un magicien, le type.
Il y a énormément de gens qui le critiquent par rapport à ses compos, etc.
En tout cas, ici, il est, pour le coup, jamais critiqué parce que
je mets au dessus. Non, je parle pas à l'antenne.
Et j'ai l'impression.
Les gars, je vous assure, ne serait-ce que sur le Twitter de Nice, etc., à chaque fois, mais vraiment, sans exagérer, il y en a plein qui se reconnaîtront dans ce que je dis, à chaque fois qu'il annonce sa compo, qu'il fait des réactions après match, c'est toujours du Zira bashing.
Sur quel point?
Sur la qualité du jeu?
Sur quel point? Surtout sur les compos et ce qu'il essaye de mettre en place. Il y en a qui comprennent pas qu'il y a un match mardi à Monaco, que c'était pas du tout prévu qu'on en soit là, deuxième actuellement après cette journée de Ligue 1. Ludo l'a rappelé, on a fait des matchs de préparation catastrophiques. On a très mal commencé contre Amiens, on gagne 2-1, jamais on doit gagner 2-1. On gagne à Rennes, jamais on doit gagner à Rennes. Putain, mais attends, Zira, il a un peu de mérite aussi.
C'est un magicien, ce gars.
Et surtout, moi, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'on commence à avoir vraiment, une attaque qui commence vraiment à faire beaucoup de créations d'occasion, et ça c'était pas le cas depuis un moment. Et Dolberg,
il est intéressant dans sa capacité à faire jouer les autres.
Juste pour revenir, Quentin, c'est quel type de choix qui sont critiqués?
C'est surtout le fait qu'il aligne régulièrement, alors ça c'est un petit peu compréhensible aussi, mais plusieurs fois Colli arrière-gauche, qui c'est vrai, il a énormément de difficultés, Colli. Mais je pense aussi que Zira préparait dans un premier temps le match de Monaco, et puis surtout il lui faisait confiance par rapport à ses dernières prestations qui étaient un petit peu en dents de scie, mais il a quand même fait le taf, et puis surtout il a marqué à Rennes. Mais il y en a beaucoup qui le critiquent, voilà.
Tu veux mettre qui à la place?
Le problème, c'est que tu pouvais mettre Sarr d'entrée, mais il revenait de blessure. Tu pouvais mettre Atta à l'arrière droit, mais là, il était très, très bon offensivement. Il a encore un deuxième but.
Sarr, tu l'as déjà vu bon à gauche, sans déconner?
Non, jamais.
Il est bon en charnière d'une défense à trois, éventuellement. Malang Sarr. En tout cas, il a raison, Vira, parce qu'il a gagné ce soir.
Oui.
Et qu'il est co-leader de Ligue 1.
Il y a la manière.
Alors, tu dis, pour l'instant, c'est anecdotique, mais 6 journées, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais 6 journées, ça commence à avoir du sens.
Ça veut rien dire. Lyon va faire une série de victoires, ils vont vite remonter. Moi, je suis pas le genre de supporter à m'emballer sur
Non, mais 12 points sur 18, avec un démarrage, avec un effectif qui est pas constitué au début de saison.
Ce qui veut dire quelque chose, c'est le contenu des matchs. Et dans le contenu des matchs, tu sens qu'il y a quand même des certitudes qui sont en train de naître. Et surtout, attends juste, ce qui est quand même intéressant, c'est que tes recrues, tu les as quand même depuis pas si longtemps. Tant que ça, donc je pense que Dolberg,
c'est le vrai premier match de recrue ce soir.
C'est ça. Donc il y a encore une marge de progression qui est énorme.
Ce qui lance ta saison, c'est que tu pars dans l'inconnu, comme Quentin le rappelle, avec les matchs amicaux qui ont semé quand même le doute sur le démarrage de la saison. On savait qu'il allait réussir à colmater un peu les brèches, faire du bricolage, mais on pensait pas. En fait, comme tu le dis, les deux victoires qui étaient pas censées être deux victoires te lancent ta saison en termes de confiance. Les mecs qui pensaient qu'ils allaient galérer, finalement ils se retrouvent avec deux victoires d'entrée de jeu. Les mecs galvanisés, ils jouent avec beaucoup plus de relâchement, beaucoup plus de confiance, d'autant plus que s'ensuit l'arrivée du propriétaire, donc les recrues qui arrivent rapidement, et tout ça fait que en fait les choses se sont bien goupillées, mais c'était sur le fil du rasoir quoi. Ça aurait pu tourner dans l'autre sens aussi.
Ouais.
Et je trouve que Patrick Vieira, alors moi, faut m'expliquer. Hein. Tu peux mettre n'importe quel entraîneur la saison dernière et avec cette équipe au départ de la saison. ben je sais pas s'il y a quelqu'un qui est capable de faire la moitié de ce que Patrick Vieira a fait.
C'est sûr. L'année dernière, de toute manière,
avec un seul attaquant, il arrive à faire un top 7, top 6, 6e.
C'est ça, c'est ça. Mais après, moi, j'étais pas non plus extrêmement inquiet pour Nice, parce que c'est vrai que les matchs amicaux, les résultats pouvaient paraître un petit peu déformants. Mais tu sens quand même que dans cette équipe-là, il y a toujours, même quand elle perd, il y a toujours quand même un style et une personnalité. Mmh. Tu sens tout de suite ce que veut mettre en place l'équipe. Après, les mots étaient identifiables, hein, j'en ai vu pas mal de leurs matchs de préparation. C'était les mêmes problèmes que l'année dernière. C'était, ça joue bien jusqu'aux 30 derniers mètres adverses. Et dans les 30 derniers mètres adverses, t'as plus personne pour faire le dernier geste.
Offensivement, là, ce trio, Ounas, Atta, Dolberg. Déjà ce soir, tu l'as dit, Ludo. La déviation d'Ounas pour Dolberg, parce que l'action est magnifique. Dolberg, le pic est magnifique. Mais la déviation d'Ounas.
Combien d'attaquants auraient tiré ou essayé de. T'as vu ce piqué, là, la qualité technique dans
un droitier qui pique pied gauche.
Le moment de lucidité dans les 5 derniers mètres.
Alors que 4 jours avant, il perd 70 000 euros. Ça montre.
Et attention, Alexis Claude-Maurice.
Mais vous l'avez énervé. Maintenant,
attention aussi. Avec. Moi, j'attends de voir quand la défense centrale sera revenue, quand il pourra aligner Attal, éventuellement le remettre latéral, et quand il y aura devant Ounas, Dolberg avec Alexis Claude-Maurice, qui lui aussi vient d'arriver, qui est un très bon joueur, ça peut avoir vraiment de la gueule, cette équipe.
Quentin, t'as pas un indice sur le voleur de la montre de Dolberg? Non?
Apparemment, de ce que les rumeurs courent, parce que j'ai aussi des quelques contacts à Nice, apparemment, ce serait un jeune, sans aucune conviction, ni aucune information.
Pas de nom, surtout.
J'avais quand même mal précisé, il n'y a pas de nom. Mais c'est juste
qu'apparemment. Pas d'amalgame, Quentin, s'il te plaît.
J'ai quelques contacts à Nice, mais apparemment, ce serait un jeune du centre de formation qui aura intégré le groupe pro, qui serait apparemment visé. Mais voilà, sans aucune conviction.
Si c'est confirmé,
mais,
ça.
Ce qui est bien, par contre, et ça c'est sûr à 100%, c'est que Vieira, on a discuté avec tous les joueurs lundi, après-midi, donc après le vol, et a passé un gros coup de gueule et s'est resté en interne. Déjà quand même une bonne chose. Juste une petite une question pour Jonathan, après je vous embête plus. Jonathan, je sais que toi tu suis énormément le foot américain, et d'ailleurs moi aussi. Par contre, je t'ai pas trop entendu à ce sujet, et ça me fait plaisir que tu en parles, par rapport à Benitez. Alors forcément, dans un match comme ce soir, on va pas beaucoup en parler, mais moi j'ai regardé les 90 minutes,
Walter,
il y a 4
Benitez.
Arrêts décisifs.
Ouais.
Benitez, ça fait 3 saisons qu'il est, enfin au moins 2, en tout cas les 2 dernières, qu'il est exceptionnel. Il est complet partout dans son 2-1 dans les 1 contre 1. En Argentine, moi j'ai 23 ans, je n'ai jamais vu un bon gardien en Argentine depuis que je regarde.
Il a raison.
Comment tu peux passer d'un gardien pareil?
Le problème, c'est que malheureusement pour lui.
Non, mais Romero, faut arrêter, quoi, les gars.
Non, mais il est meilleur que Romero.
Malheureusement pour lui, il joue à l'OGC Nice. C'est ça. La médiatisation de l'OGC Nice.
Romero était remplaçant à Monaco, il était titulaire en Argentine.
Il était quand même passé par des grands clubs, il avait joué longtemps au pays surtout. Et surtout, ce qu'il faut dire, il y a quand même Andrada, le gardien de Boca Junior, qui est jeune et qui montre quand même de certaines qualités.
Est-ce que la nouvelle stature de Nice peut changer la donne ou pas?
Il faut que Nice soit européen. Ça peut éventuellement faire changer la donne. Mais malheureusement, Nice, quand t'ouvres Clarine, t'as jamais une page sur Nice, quoi. Alors que, très sincèrement, il a le niveau pour être en sélection.
Merci, Quentin.
Bon, avec plaisir, bonne soirée.
Salut, excellente saison à toi. Rapidement, les gars, avant de partir en pause, un top 3 gardien Ligue 1. Lili, hein, Benitez. Hein.
Oui, bah oui.
Tu mets qui? Lopez?
Lopez, numéro 1 pour moi.
Numéro 1, Johnny Lopez.
Le mandandat de cette saison, numéro 2. Et Keylor Navas. Non, en fait, le numéro 1, c'est Keylor Navas. On est obligé maintenant. C'est Navas, Lopez, mandandat.
Je suis obligé de te mettre Sels. Je suis obligé de te mettre.
Matt Sels, tu mets toi?
Ouais, je mets Matt Sels.
Ok.
Ouais. On est d'accord, c'est le meilleur, c'est Keylor Navas.
Attends, on va voir.
Ouais, mais on met pas.
On verra.
Non, Keylor Navas, c'est sûr.
Oui, sur le CV, c'est le meilleur. Maintenant, on va voir cette saison ce qu'il va faire.
Ouais.
Attention à Rajkovic. Hein. Beaucoup de réactions sur le hashtag RMC Live sur Rajkovic. Certains disent même, pourquoi pas un futur gardien du PSG.
Moi, je l'ai vu évoluer à Tel Aviv, donc je peux te dire que c'est un très bon gardien.
Le gardien de Reims, c'est le futur gardien du PSG.
Très fort, nous dit
Eric McLoufi. Messieurs, on revient dans un instant.
Qui m'a pas empêché de lui claquer un but, mais mais bon.
À qui tu n'as pas marqué de but, évidemment. On revient dans un instant. Jonathan Macardy, Ludovico Bragnac, les drôles de dames arrivent également. Le derby milanais, l'Olympique de Marseille. Une info à vous donner sur Alvaro. On a des précisions sur la blessure. C'est plus grave que prévu, a priori, pour Alvaro Gonzalez. C'est un vrai problème pour l'Olympique de Marseille. À tout de suite.
Y a pas que ça. Hein.
RMC. L'After Foot. Nicolas Jamain.
Ludovico Bragnac. Jonathan Macardy. on est ensemble jusqu'à minuit, c'est l'after bien sûr. Après le débrief à l'instant de la victoire de Nice, co-leader provisoirement avec le Paris Saint-Germain, parlons de Bordeaux-Brest qui avait une occasion de monter sur le podium ce soir, les Bordelais qui ont été tenus en échec. Deux buts partout par les Brestois, l'évolution du score, Bordeaux avait ouvert le score comme la semaine dernière très tôt dans la rencontre grâce à Jimmy Briand.
Encore.
95e but pour Jimmy Briand, meilleur buteur français en activité en Ligue 1, égalisation de Samuel Grandsir à la 20e. Brest prend l'avantage grâce à Autretz à la 46e. Pablo égalise pour les Girondins de Bordeaux à la 70e minute de jeu. Occasion ratée pour les Bordelais. Bon, cinquième match sans défaite. Mais il y avait un coup à faire, encore une fois, ce soir, confirmé.
Occasion ratée, mais ils sont chanceux parce que t'as Mendy qui a la balle du 3-1, où il touche le montant.
Ouais.
S'il la met,
prêté par les Girondins.
S'il la met, c'est défaite à domicile. Donc, moi, je suis des Bordelais à mi-temps, comme souvent. C'est-à-dire une première mi-temps où ils sont moribonds, où tu te dis, bah, finalement, ils sont Depréville un peu dépendants. Depréville n'est pas là. C'est la première fois que je ne suis pas Paulo Sousa sur ses choix.
Sur quoi ?
Sur son équipe de départ. Je ne sais pas pourquoi il est repassé avec cette défense à 5 avec Kalou dans le couloir gauche. Alors certes, Kalou
fait, Pablo, Koscielny, Jovanovic et Kalou,
Kalou fait un match dégueulasse et c'est aussi de sa responsabilité. Mais est-ce que ce garçon est fait pour jouer à ce poste-là ? J'en suis pas certain et pas convaincu. Donc tu le mets pas non plus dans les meilleures conditions. Et puis tu sais pas ce qui se passe en deuxième mi-temps. Ah, pareil, est-ce que aligner Adli et Benraou en même temps, c'était la bonne idée, tu vois, ça avait l'équipe qui avait réussi à faire un bon match contre Metz.
Match, 20 minutes.
Non, mais du moins, il y avait ce sentiment de la gagne. Tu pouvais quand même laisser cette équipe un peu qu'elle essaye de se mettre en place, de bosser dans la continuité. Tu aurais eu la trêve d'octobre pour essayer. Et tu vois, Adli, t'aurais pu le faire rentrer aussi. Alors même s'il est décisif ce soir. Mais tu vois, je trouve qu'aligner les deux, c'était un peu présomptueux, tu vois.
Il y avait quand même Otavio avec.
Ouais.
Pour assurer la sécurité, pour faire le sale boulot,
mais
pour faire le ménage.
Tu vois,
moi, c'est pas ce qui m'a choqué, parce que j'ai trouvé qu'au milieu de terrain, ils avaient été relativement corrects. Après, donc oui, l'absence de Depréville s'est fait sentir, parce que tu sens qu'avec lui, les mouvements offensifs sont quand même beaucoup plus fluides. Mais je rejoins Ludo. Pourquoi être repassé avec sa défense à trois centraux, qui fonctionne pas vraiment très bien depuis que Paulo Sousa est arrivé? Il a pas vraiment, je pense, les joueurs de couloir pour jouer dans ce système-là.
Ah bah non, Kalou n'est pas un piston.
Kalou n'est pas un piston. Kouateng, je pense qu'il est quand même, je pense pas qu'il ait vraiment le profil pour jouer à 5, j'attends de voir, mais je pense que c'est plus un défenseur pour jouer à 4. Et le problème de Bordeaux, en fait, c'est l'irrégularité permanente, structurelle, sur les 90 minutes, parce que t'as des moments dans le match où tu dis bon, voilà, ils sont en train de reprendre le dessus, et puis t'as toujours des moments de flottement derrière, d'organisation, que t'as du mal à comprendre. Donc c'est à régler, mais il faut quand même noter que cette équipe, si on fait le petit trend sur les 3-4 dernières journées, c'est une équipe qui est en progrès.
Bordeaux en progrès, en tout cas. Bordeaux qui s'en sort bien, effectivement,
en
début partout.
En tout cas, qui montre du caractère.
Oui.
Parce qu'il était pas simple de redresser la barre à la mi-temps. Brest avait pris Brest avait pris quand même l'ascendant sur cette première période. Le fait qu'ils soient menés, alors ils avaient ouvert le score, mais le fait qu'ils soient menés à 2-1, il fallait quand même revenir dans la partie. C'était pas évident. Je trouve qu'ils ont eu la réaction qu'il fallait. Ils ont mis l'intensité qu'il fallait, mais c'est vrai qu'on n'a jamais de certitude avec cette équipe.
Et Brest peut avoir des regrets parce qu'ils ont effectivement la balle du 3-1. Et aussi parce que je sais qu'on va passer à un autre match, mais vraiment souligner encore un match très intéressant de Belkebla qui s'adapte à la Ligue 1 de manière très positive. Et c'est vraiment un très très bon joueur. Et après ce qu'il a vécu cet été, alors certains diront que c'était un petit peu de sa faute, mais son éviction de l'équipe de la sélection algérienne, c'est bien de le voir réagir comme ça et de sortir des beaux débuts en Ligue 1. Donc salut à lui.
Voilà pour le match nul entre Bordeaux et Brest, hein, messieurs, juste le classement, faire un point sur le classement. Bordeaux 6e avec 9 points, 6 matchs joués bien sûr. Brest est désormais 15e, 7 points pour l'instant.
Cité aussi Dalloglio, hein, qui
bien sûr
qui
non mais Brest, pas de souci les gars.
Qui impose, non,
bah, pas il va y avoir maintien.
Non, il y a rien de quand tu montes comme ça, il y a rien de défini, il faut aller gagner ses galons. Je trouve que le recrutement était plutôt intelligent avec des joueurs comme Grandsir. Mathias Autré qui est un très bon joueur de Ligue 2, on savait pas, il a prouvé qu'il était un très très bon joueur de Ligue 2, un des meilleurs joueurs de Ligue 2. Après, est-ce qu'il arriverait à passer le cap? Il montre qu'il est hyper décisif en ce début de saison, et puis Gaëtan Charbonnet, Bah, charbonnier qui charbonne, bon, alors c'est.
Ça passe.
Excusez-moi.
T'as pas fait exprès en
mais,
plus. Là.
Non, j'ai pas fait exprès, mais c'est vrai qu'il est. Il est volontaire, ce garçon. Franchement, il a pas peur de se relever les manches.
Un bon maintien, c'est très bien, ben, Charbonnier.
Ouais, tu vois, que c'est plutôt cohérent ce que fait Brest.
Voilà, le nul pour entre Bordeaux et Brest. 2-2. Bonne opération pour les Brestois. Tout de même, dans un instant, on parle de Marseille, bien sûr. On débriefe, on refait le match entre Marseille et Montpellier avec des infos qui nous parviennent sur Alvaro Gonzalez, sorti à la 7e minute. A priori, c'est très problématique pour Alvaro Gonzalez. On rappelle que Boubacar Camara a été exclu, même s'il y a un recours de l'OM pour contester le carton rouge. On en parle dans un instant, Jonathan.
Personne n'a compris.
On parle dans un instant. Juste Monaco, rapidement les gars, quand même. Peut-être un sursis pour Leonardo Jardim. 0-0 sur la pelouse de Reims pour les Monégasques. Est-ce que c'est le point de la convalescence? On le saura plus tard. Il y a un gros derby contre Nice qui se profile mardi soir.
C'est un moindre mal.
Ils ont souffert, hein, Ludo.
C'est un moindre mal, en tout cas, mais... Jardim était un peu sur le fait accompli, il était à l'heure des choix. Or, il a décidé de sortir Jamerson et Fabregas, ce qui n'est pas rien, puisqu'ils sont titulaires depuis le début de la saison.
Et il a joué Fabregas cette saison?
Bah, un peu quand même.
Ah oui?
Ouais, t'es pas sympa.
Non, mais il a eu sa suspension.
Ouais, mais la Ligue 1, c'est nul. Donc, il y peut rien, le pauvre. C'est la Ligue 1 qui,
c'est la Ligue 1 qui
tire vers le bas. Donc,
il est trop fort pour la Ligue 1.
Bah, bien sûr.
Comme le PSG à une époque, quoi.
Ouais.
Mais voilà, il a le parti pris, c'était de garder Glick une fois de plus, mais de mieux l'entourer.
On va dire
que défensivement, bon, c'est pour une fois, ils ont pas été submergés. Ça a tenu la baraque, même si ça a souffert beaucoup. Ça a souffert beaucoup, mais oui. Bon, ça a plié, mais ça a pas rompu. D'habitude, ça rompt à maintes
reprises.
Dans
les grandes largeurs.
Voilà. Oh, Reims a eu quand même 2-3. Reims peut avoir des regrets parce que Reims a eu quand même 2-3 situations. S'il les joue mieux, à mon avis, ils peuvent repartir avec les 3 points. Ce qui est intéressant pour Monaco, c'est que oui, effectivement, ça t'a senti moins de panique derrière. Je pense que cette défense à 3, il faut la garder. Tu as les joueurs pour. Je pense que ça met plus en valeur, notamment Ruben Aguilar, ouais, qui est un défenseur latéral d'une défense pour jouer à 5. Et puis voilà, on va quand même souligner qu'il leur manquait leur duo d'attaque qui les porte depuis le début de la saison, Slimani Ben Yedder. Que devant, tu vois que il a essayé de mettre Keita Baldé et Gelson Martin. C'est pas vraiment des joueurs pour jouer dans l'axe. C'est plus pour moi des attaquants de couloir. Donc il a essayé de bricoler
Est-ce qu'Augustin est en forme? Je sais pas.
Ce que je note surtout qui est très intéressant, c'est que Adrien Silva, qui l'année dernière était arrivé, avait vraiment tenu la baraque et sauvé une grande partie de mérite dans le maintien de Monaco. Chaque fois qu'il est là, voilà. Il a été très bon. Tolly au milieu de terrain, et je pense surtout que voilà, ce milieu, si tu restes à 5 derrière, mais si tu fais un milieu à 3 avec Golovin, Silva et Bakayoko, c'est quand même très très complémentaire, très intéressant, et ça peut permettre à Monaco d'envisager les choses un peu plus sereinement.
Ça va un peu mieux Golovin, doucement hein, quand même hein.
C'est un bon joueur.
Il a fait une action, contrôle orienté, frappe sortie par l'excellent, parce qu'on peut en parler de Rajkovic également, ouais, le gardien de Reims, qui est une vraie bonne pioche pour l'instant pour Monaco. Bon voilà, tu l'as dit, Slimani pas là,
Ben Yedder pas là,
6 buts à 2 en début de saison.
Ouais. Et surtout, c'est la complémentarité entre les deux, et c'est la manière dont ils font jouer cette équipe. Après, très rapidement sur Reims, je pense qu'ils peuvent quand même un petit peu avoir des regrets parce qu'ils ont eu 2-3 situations, mais Reims, c'est quand même une des bonnes équipes de Ligue 1 dont on ne parle pas assez.
Voilà pour ce...
Ah, mine de rien, Monaco est quand même avant-dernier avec 3 points.
Oui.
Pour l'instant.
Au-delà du match, enfin, on en est à...
On en est là.
C'est-à-dire qu'on en est à dire que Monaco a presque fait un bon match parce qu'ils ont réussi à...
Oui, mais...
Ils ont réussi à prendre un point à Reims en défendant pour une fois bien. Enfin,
ce qui va être compliqué, à mon avis, ça va être le match, le derby contre Nice. Là, ça peut vraiment mettre le feu aux poudres.
Claude Puel était dans nos locaux aujourd'hui.
Ouais.
Il était sur l'émission de Première Ligue sur RMC Sport 1.
Ouais, tu sais, les
avions, on va appeler nos camarades qui font la Première Ligue pour savoir s'il a évoqué son avenir.
Il a qu'à mettre son téléphone sur la table et attendre entre Saint-Étienne, Monaco. Enfin, il y aura du choix.
On me dit dans l'oreillette qu'il a été interrogé. Normal, bah, on est des pros, nous, ici.
Il n'y a rien.
Pour l'instant, il dit qu'il ne veut pas en parler.
Ah, il ne veut pas en parler ou il n'y a rien?
Il ne veut pas en parler.
Arthur Robert. Il y a un entraîneur en place et qui ne l'a pas s'exprimer sur le sujet.
Oui, bon, bah voilà, on a compris. Il y a des contacts.
Et puis l'animal, pour lui tirer les verres du nez, vas-y, amuse-toi.
Ah, bah lui, c'est. Quand il veut être porte de prison, c'est porte de prison.
Ah, Claude Puel, avec cet effectif, ça peut.
Ah ouais, là, il faut de la rigueur pour le coup.
Ah ouais, bien sûr.
On a longtemps dit que Claude Jardim était un homme extrêmement rigoureux.
Non, mais il est en fin de cycle à Monaco. C'était. Voilà.
Voilà pour le match nul entre Monaco et Reims, 0-0, dis-moi.
Est-ce qu'on pourra parler de casse du siècle quand même quand il sera viré pour la deuxième fois?
Ah mais là, il faudrait faire un calcul total.
Ouais.
des indemnités. Et Libop a fait partout où il est passé.
Alain Perrin.
Mais
aussi.
Là, non, mais là, attends. Et puis si Zizou, il sort du Real. Là, on parle de dizaines de millions d'euros. Faudrait voir. Faudrait faire un classement des casses, tu vois. Ouais. Des mecs qui reviennent, qui prennent déjà une indemnité, qui reviennent, qui en reprennent deuxième quelques mois après.
Alors, Rudy Garcia,
la morale
c'est pas
de l'histoire,
mal,
messieurs, la morale de l'histoire, c'est Zidane, bah, comme Léo Jardim, ne jamais revenir avec son ex.
Le plus beau cas, c'était Laurent Blanc.
Les prix Philippe Poteau est avec nous, buteur ce soir, avec Romain Philippe Poteau. Salut Romain.
Oui, bonjour.
Bravo pour la victoire de Nîmes Olympique ce soir, 1-0 face à Toulouse. Tu as marqué. Tu as marqué ton deuxième but de la. Tu sais ou pas? Ouais. Tu as marqué pour le deuxième.
Ça fait plaisir, oui.
Bah oui, c'était plaisir.
C'était un match important pour nous et ouais, ça fait plaisir de marquer et prendre des 3 points sur
et je veux dire, c'est plaisir
commence pas à me faire tes phrases bateau et ça fait plaisir et on a pris les 3 points. Hein. Tu m'as fait ton petit la spéciale. Je pars sur le côté, je rentre à l'intérieur. Putain, ils l'ont pas compris celle-là encore. Putain, à force de te regarder.
D'habitude, c'est mon gaucher préféré qui me fait les passes.
T'es trop vif, t'es au-dessus, t'es trop vif. Ils peuvent pas t'attraper.
Ça va,
Ludo. Ça va, et toi?
Ah, tu l'as reconnu, Ludo? T'as reconnu sa voix?
Attends, on a galéré ensemble à Auxerre. On est copains comme cochons maintenant.
Bah oui. Bravo. Bon, elle fait du bien cette victoire. Hein. Bon, il y a pas le faux lac évidemment pour vous Nîmes Olympique, mais face à Toulouse, toujours important. C'est certainement un des concurrents pour le maintien en plus.
C'est ça, on était sur 3 résultats positifs, donc il faut aller à domicile. On sait que ça passe par un bon parcours à domicile pour notre maintien. Et c'est vrai qu'on arrive à domicile à mettre une grosse pression sur l'adversaire. On les a un peu étouffés en première mi-temps et on a pu concrétiser. Après, voilà, on a géré. Bon, on a souffert en seconde, mais bon, on a obtenu l'essentiel. Maintenant, on a un derby important pour le club. Donc voilà, on va bien se préparer.
Un petit Montpellier-Nîmes la semaine prochaine qui se profile pour vous. Nîmes, 11e, 8 points, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 7 buts encaissés, 7 buts marqués pour l'instant. Ils sont bien là, dans ce début de saison.
Ils sont très bien, ils reviennent fort. On a beaucoup douté par rapport au transfert de l'été, transfert estival, puisque Nîmes a quand même beaucoup perdu. Et puis mine de rien,
leur directeur sportif est revenu surtout.
Bah ouais, mais tu vois, en fait, ils ont misé comme à chaque fois le fait que le recruteur soit revenu. Alors je sais pas si ça a joué un rôle dans le retour de Romain. Romain, ça a joué un rôle ou pas le
ouais,
fait...
oui,
ouais, c'est lui
moi,
qui t'a.
Moi, en fait, il est parti après. Quand je suis arrivé, donc après il est revenu, mais c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un d'important dans le recrutement et voilà, ils ont fait et on a perdu beaucoup de monde. C'est vrai que ça a mis pas mal de doutes aux spectateurs, mais après c'est un vestiaire qui vit très très bien et voilà, ils ont fait des paris.
Tu gardes le tolier, enfin les
tout ça et pour l'instant c'est ça.
Ah, il minimise non mais il minimise
Berferi, Savanier, c'est
ouais, mais il minimise les paris, c'est à dire que sur tes ailes t'avais quand même perdu Buenga, Tube.
Oui.
Si tu étudies bien la Ligue 2 et si tu es connaisseur, tu sais que Romain et Ferrat de l'autre côté, c'était les deux meilleurs joueurs à leur poste des deux dernières saisons de Ligue 2. Donc tu vois, t'as pas pris un risque énorme, t'as fait ton petit mercato dans l'ombre, voilà, tu prends les joueurs sur lesquels parfois personne se positionne, comme ils avaient fait avec Umut Bozok, hein, finalement. Et puis Romain, voilà, je le connais, il a besoin de se sentir poussé par le collectif, donc je suppose que tu as dû être parfaitement intégré et que tu dois te sentir comme un poisson dans l'eau là-bas.
Ouais, c'est exactement ça. Franchement, c'est un vestiaire. Moi qui ai connu le monde amateur, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que c'est vraiment une ambiance familiale.
C'est champêtre.
Ah, franchement, ils m'ont fait. J'ai 31 ans, mais j'ai l'impression d'avoir 25 ans avec eux, tellement ils sont fous, c'est jeune. Mais voilà, c'est vraiment. Ils m'ont très bien adopté et c'est facile de s'intégrer dans ce vestiaire-là. Après, par contre, ça ne les empêche pas de se défoncer sur le terrain. Mais voilà, c'est vraiment une super ambiance et ça fait la force de l'équipe et du club. Et voilà, on sait qu'on a moins de qualité que certains, mais par contre, voilà, on met d'autres arguments. Donc non, c'est super.
Et puis mettre en valeur aussi, alors on n'en parle pas beaucoup parce que c'est peut-être un des moins connus, mais je te connais, pour que tu puisses t'exprimer aussi, tu as besoin d'une doublette qui te seconde. Et Miguel, je trouve qu'il fait beaucoup de boulot pour t'ouvrir la porte, pour que tu puisses justement, toi, avoir un peu plus de liberté pour rentrer à l'intérieur comme tu aimes bien le faire.
C'est vrai que voilà, toi tu m'as connu avec Paloma à Auxerre. C'est vrai que quand tu joues sur le côté, ça marche par doublette. Tout seul, c'est dur de faire. Lui, voilà, Flo, il me met les ballons en première intention. Il me permet de mettre dans les meilleures conditions. Et voilà, après, moi, ça me permet d'avoir un temps d'avance. Donc, alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais voilà, comme tu as dit, c'est très important que derrière, voilà, ça fonctionne bien, des automatismes se créent. Voilà, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Donc, voilà, c'est bien.
Merci Romain, à bienvenue dans l'after. Tiens, un mot juste, Montpellier-Nîmes, ton premier derby là. On t'en parle beaucoup, j'imagine.
Ah ouais, ils parlent que de ça ici, c'est incroyable. J'ai l'impression que c'est encore plus gros que le Classico Paris-Marseille. Ils sont comme des fous, ils nous parlent de ça depuis le début de saison. On n'a pas le droit à l'erreur. L'année dernière, ils avaient perdu 3-0 là-bas. Donc, je sais que demain, ils viennent au centre d'entraînement nous mettre la pression. Donc, voilà, va falloir répondre présent et leur faire plaisir et continuer notre petit bonhomme de chemin.
Romain, on peut te lancer un défi, juste une chose, si tu marques là contre Montpellier ou plus tard dans la saison, fais-nous une célébration pour l'after et pour RMC.
Ça va, ouais, pas de soucis.
Tu nous fais le gars qui écoute la radio, là, les mains sur le casque.
Ouais, c'est bien,
tu nous fais ça,
c'est
pas mal. Tu nous le fais, hein. Ludo va veiller à ça.
Il n'y a pas de souci.
Merci Romain, excellente soirée à toi et bravo
salut,
à vous.
Salut Romain,
8e de Ligue 1. Montpellier-Nîmes, évidemment, le gros derby. On vient dans un instant, messieurs, on va parler de l'Olympique de Marseille, tenu en échec à domicile. Ça s'est fini à 9 contre 10 joueurs ce match. C'est parti un peu en vrille en fin de rencontre.
Et une fois de plus, nous ne sommes pas d'accord.
Et vous n'êtes pas d'accord. Il y a un vrai débat qui se profile, encore une fois, un nouveau combat entre Jonathan Macardy et Ludovic Obraniak.
Est-ce qu'il aura une chance dans celui-là?
On va. Et la grande question, c'est avec quelle défense centrale tu vas à Dijon? Parce que là, les gars.
Grégory Sertic.
Ça caille a priori juste encore. On en parle dans un instant des nouvelles de Alvaro Gonzalez, bien sûr. C'est plus grave que prévu. L'after revient, Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak, à tout de suite.
RMC.
L'after foot.
Nicolas Jamain.
Ludovic Obraniak, Jonathan Macardy, les drôles dames, patientes. On aura tout le monde. On aura Paulo Breitner. On aura Simone Rovera. On aura Fred Hamel pour parler de la très probable défaite du Barça à Grenade. Incroyable, mené 2-0.
Que se passe-t-il?
Et on aura Simone Rovera pour parler notamment de. Encore une fois, Adrien Rabiot n'a pas joué. Blaise Matuidi titulaire. Ça commence à être compliqué pour Adrien, pour le Duc. Marseille-Montpellier.
Ah là là.
Un partout, score final. Dans ce match de fin d'après-midi, c'était au Vélodrome, avec une des tribunes d'ailleurs vide.
Oh, alors ça. Ça,
voilà, vas-y, je te laisse 30 secondes, vas-y.
Alors ça, mais c'est une aberration, ça va, c'était l'anniversaire des Ultras, c'était l'anniversaire en virage, il y a eu une belle fête, la Ligue elle va se rincer en se servant des images pour vendre les droits du championnat à l'étranger, et en gros faux cul qu'ils sont, ils suspendent la tribune. Non mais ça, ils suspendent le virage, c'est n'importe quoi, c'est une aberration, et très franchement il y en a marre de ça, c'est bon quoi. La fête était très belle, il n'y a pas eu d'incident, certes il y a eu des fumigènes, mais ça fait partie des images qui vont permettre à la France, au championnat français de rayonner à l'étranger. Donc non stop à l'hypocrisie généralisée à ce sujet-là quoi.
Voilà, vraiment marre. C'est bon. Ah mais c'est bien. Oui, d'accord.
En plus, Leeds a pas gagné, s'est fait escroquer, donc là, je suis un peu chaud là.
Oui, mais il est quand même leader, hein, Marcelo.
Oui, mais bon.
Je suis un peu cheap, hein, pour l'instant.
Il a fait son Mélenchon maintenant.
Et Sabri Lamouchi bien avec Nottingham Forest.
Pas
hein.
Comme ça.
Sabri Lamouchi aussi à la lutte avec Marcelo Bielsa, Sabri Lamouchi
avec
Nottingham pour monter en première ligue. Messieurs, un partout donc. Il a fait son Mélenchon. Oui,
et son syndicaliste.
Je supporte pas que je te prie d'avoir d'autres comparaisons, s'il te plaît. Sinon là, on
messieurs, pas de politique.
Les coups à la boxe.
Pas de politique dans l'after, messieurs. En tout cas, faites-le sournoisement et pas comme ça, pas aussi clairement.
C'est lui. C'est un coup bas.
Ah oui, un partout, oui. Score final. Marseille-Montpellier. Je rappelle le scénario de ce match. Bounassar contre son camp à la 17e. Valère Germain égalise. Valère de rien.
Bravo. Mais à coup de
deux buts. Aussi. En deux matchs.
Et il a fait un bon match.
Pour Valère Germain, qui fait un bon match encore une fois. Et ce gars-là ne se plaint jamais. On va en parler, Valère Germain. But à la 74e minute. Match terminé à 9 Marseillais contre 10 Montpellier. On va en parler également. C'était chaud. C'est parti complètement en vrille. Échange de coups. Radonjic, Jordan Ferry. Ferry expulsé. Boubacar Camara expulsé. Recours de l'Olympique de Marseille qui dit qu'il a voulu s'interposer et surtout pas semer le trouble, en tout cas semer à la bagarre. Dimitri Payet qui pète les plombs littéralement en fin de match également contre l'arbitre, expulsé.
Ah mais c'est qui a pété un plomb.
Et surtout messieurs, on va ouvrir par ça parce que c'est une des infos de la soirée côté marseillais. Là. 7e minute de jeu, sortie de terrain d'Alvaro Gonzalez, convaincant depuis début de saison.
Plutôt convaincant.
Bonne recrue.
Plutôt convaincant.
Alors,
putain, défense,
en conf, Villas-Boas parle 4 semaines d'indisponibilité. Après examen, il s'avère effectivement que le défenseur espagnol est assez sérieusement blessé au niveau du péroné. En interne, on craindrait même chez les dirigeants marseillais qu'il s'agisse d'une fracture du péroné, ce qui pourrait éloigner de plusieurs semaines, bien sûr, de plus d'un mois, bien sûr, des terrains Alvaro Gonzalez. Gros coup dur pour l'OM, hein, qui devra se passer d'un joueur précieux, bien sûr, d'autant plus que Sakai est en délicatesse avec son mollet. et que son retour dès mardi à Dijon n'est pas encore acquis à 100%. Solution à court terme, Chalet Tatsar qui est entré en jeu à sa place aujourd'hui.
Qui a pas démérité d'ailleurs.
Oui, il a fait quelques frayeurs.
Ouais, Grégory Sertic.
Il a pas démérité.
Je pense qu'il est
pour l'instant écarté par Villas-Boas.
Non, mais ce sera plutôt Perrin.
Ou le jeune Lucas Perrin, effectivement.
Perrin plutôt. C'est Perrin qui, à mon avis, jouera à la place de Sertic. Sertic, quand il l'a fait jouer, l'a mis plutôt mieux de terrain. Donc, si on peut éventuellement compter sur lui, ça sera ce poste-là.
Appelez-nous, supporter marseillais au 32-16. Hein. Déjà beaucoup d'appels, le supporter marseillais, bien sûr. Nicolas est avec nous, supporter marseillais. Salut, Nicolas.
Bonsoir.
Salut Nicolas.
Bonsoir Jonathan, bonsoir tout le monde.
Salut Nicolas. Bon, juste un mot sur, on va parler avec Ludo et Jonathan. Si c'est confirmé, les plusieurs semaines d'absence, au moins un mois, c'est un coup dur pour l'OM, d'Alvaro Gonzalez.
Ouais, c'est un coup dur parce que c'était, il a rehaussé le niveau derrière et j'avais l'impression qu'il était, qu'il rassurait les trois autres en fait.
C'est ça.
Bon, de toute façon, on l'a vu quand il est sorti, on a été un peu moins serein. Mais en fait, moi, je voulais parler de ce match et.
Vas-y.
Parce que bon, on pourrait parler pendant une heure de ce match, il y a tellement de choses à dire. C'est complètement il y a deux opposés qui se sont affrontés. Il y a le football qu'on aime voir, de Villas-Boas, et le football français qu'on aime, qu'on en a marre de voir, celui de Der Zakarian. C'est un football complètement écœurant. J'étais devant le stade, devant le match à la télé. Il y a la frustration d'avoir fait un partout à la fin du match. Mais à la sortie de ce match, je suis écœuré parce que je me dis, c'est comment on peut engager des mecs comme Der Zakarian, ils sont très
utiles. Oui, parce qu'il fait top 7, top 8 de Ligue 1.
C'est pas
moyens illimités.
C'est pas récurrent.
C'est trop dur, les gars.
C'est pas récurrent. Je crois que c'est surtout.
Vas-y, Ludo.
Je crois que c'est surtout.
Attends, Nicolas.
Je suis éducateur. Je forme des jeunes. Je vais voir des matchs en U17 nationaux, U19 nationaux. Je vois qu'on essaye de faire du jeu. Donc, on forme des jeunes pour les envoyer après en pro, en Ligue 1, pour qu'ils soient déformés par des mecs.
Oui, t'as raison.
Le football marche sur la tête. Et je veux dire, regardez, Villas-Boas, il est en train de faire la même chose que il a le même effectif que Garcia avait l'année dernière. Il a déjà prouvé qu'on aurait pu faire beaucoup mieux l'année dernière avec un discours beaucoup plus cohérent. Moi, j'entends les joueurs aujourd'hui, ils parlent de plan de jeu, c'est des choses que j'ai jamais entendues avec Garcia.
Il a peut-être même un moins bon effectif que Rudy Garcia parce que t'as pas Gustavo et t'as pas Florian Thauvin. Alors certes, t'as Benedetto et Alvaro, mais t'as plus Thauvin ni Gustavo.
Ludo, je peux rejoindre Nicolas sur le pragmatisme qui est relié à ce que peut faire Michel Der Zakarian, mais force est de constater que ce que fait Montpellier la saison dernière et sur ce début de saison, il a quand même littéralement changé, il a son fusil d'épaule. C'est-à-dire que là, je pense que l'OM a réussi probablement son meilleur match de la saison, qu'ils ont asphyxié, étouffé cette équipe de Montpellier, qui a pas trouvé les solutions pour s'en sortir, tout simplement. C'est même pas qu'ils ont refusé le jeu, c'est qu'ils ont été bouffés.
À un moment, si.
Ils ont été.
Dans les 30 dernières minutes, si, les changements, il fait sortir Mollet, mais des joueurs défensifs. Dans les 30 dernières minutes, ils défendent à 10.
Parce que dans les 25 dernières minutes, il a compris que le match, il n'arriverait jamais à le retourner, et que il fallait défendre bec et ongle ce point du match nul qui est un miracle.
Ce qui me dérange dans ce match-là, c'est que certes Marseille a fait un très bon match. On a vu des choses intéressantes. Maxime Lopez très très bon ce soir. Il faut le souligner parce que c'est un peu en train de devenir une tête de turc chez certains, mais c'est totalement injustifié. Il a fait un très bon match. Payet, on commence à le retrouver.
Tu sais ce qui me ferait plaisir, c'est que tu le dises aussi.
C'est que Morgan Sanson a été moins catastrophique que d'habitude, mais quand même,
il a apporté énormément.
En fait, si je suis sévère avec lui, c'est parce qu'il peut faire plus, c'est que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Et pour l'instant, il n'est pas au niveau qu'il avait.
Mais coup pas là, quand même, entre Valère Germain qui plante encore une fois en position d'ailier droit, c'est pas le sien.
Non, oui.
Morgan Sanson qui apporte énormément sur ce match.
Énormément, non, mais les gars, arrêtez. Il apporte pas énormément.
Vas-y, Nico.
Désolé,
Nicolas.
Il a fait un match correct.
Est-ce qu'on peut parler de ça, parce que en fait, moi, ce qui me dérange aussi, c'est que l'année dernière, on avait un Garcia, on le voyait qu'il n'y avait rien de travaillé, que c'était vraiment. Mais cette année, j'ai l'impression d'entendre les journalistes à la radio, ouais, j'ai Courbis, j'en entends plein, qui se sont plaints de voir Payet à gauche, de voir Germain à droite. Mais les mecs, ils croyaient que Villas-Boas arrive le vendredi soir, devant sa feuille, il se dit je vais mettre Germain à droite et Payet à gauche. On dirait que c'est. À les entendre, il le prépare 10 secondes avant le match.
Non, Nicolas, je vais t'expliquer.
Vas-y, Nicolas.
Oui.
Je vais t'expliquer pourquoi il fait ça. Alors, moi, je le critique, ce choix-là, mais t'es obligé de le faire parce que côté droit, tu n'as pas Florian Thauvin et côté gauche, tu n'as pas remplacé Lucas Ocampos, tout simplement. T'as pas vraiment le choix. T'as pas d'ailier.
En fait, ce qu'il a, c'est que
Il le fait pourquoi? Parce qu'il voit que, parce que Sarr, il joue pratiquement comme un ailier quand on a le ballon. Donc, du coup, Germain, il rentre intérieur.
Et aussi parce qu'il a que ça. Donc, Nicolas, c'est parce qu'il a que ça. Tu veux mettre qui à la place?
Laisse-le parler, Nicolas. Vas-y, Nicolas.
Plus dans l'axe que sur le côté gauche. Mais pareil, à ma vie, il monte énormément. Donc, c'est lui qui centre. Si on avait des ailiers, comme tu dis, comme Ocampos et Florian Thauvin, il jouerait différemment, évidemment. Mais là, je veux dire, c'est une organisation. Il y a une recherche quand même. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a conquis les joueurs. C'est pour ça que Payet se donne à 200% aujourd'hui, parce qu'il
a un bon match
de travailler. Il y a un vrai discours derrière tout ça. Parce que les joueurs, à un moment donné aussi, ils ont envie de jouer au football, les mecs.
Et non, mais Nicolas.
De jouer comme des. Comme on le voit, il y a la moitié des équipes de Ligue 1 le font. Je veux dire, c'est.
Nicolas. Pas envie de voir. Payet, il est transfiguré. Il n'a plus rien à voir avec le joueur qu'on a vu la saison dernière, pour l'instant en tout cas.
Il a fait un bon match, mais il lui manque encore dans les derniers gestes, il a trouvé quelques imprécisions. Ses coups de pied arrêtés, pas forcément toujours très bien tirés, alors que c'est une force pour lui. Après, sur bien ce match-là, là où je veux en venir, c'est que certes, Marseille a fait un très bon match, mais je pense que Villas-Boas a réagi trop tardivement dans sa lecture du jeu. À la 60e, à un moment, quand il fait sortir Morgan Sanson, qui était en dessous de Maxime Lopez, et qui fait rentrer Radonjić couloir gauche, il repasse en 4-2-3-1. Dimitri Payet se remet derrière l'attaquant, et là, Marseille devient plus tranchant, parce que je suis désolé, même si Marseille a donné sur l'ensemble du match, jusqu'à ce changement-là, une impression générale assez positive, ça manquait quand même de dangerosité dans les 30 derniers mètres. Et en fait, ce que je reproche à Villas-Boas, c'est de pas avoir fait ce changement tout de suite, parce que tu rentres à la mi-temps, t'es mené 1-0. Ok, t'es mené 1-0 avec des grosses cagades défensives encore une fois de Jordan Amavi. T'es mené 1-0, je pense que le changement tu devais le faire beaucoup plus tôt, parce que dès les 30 premières minutes de jeu, ce qui apparaissait très clairement, c'est que Benedetto était trop esselé devant, pris dans cette défense à 5, que Payet t'avais du mal à trouver Pipa, avait trouvé des mal à trouver ses angles de passe là, et qu'à chaque fois t'étais un petit peu étouffé dans l'axe.
Et donc attends,
pour finir,
toi qui veux jamais entendre parler de Radonjić,
pour finir,
et là tu me dis qu'il fallait le faire
rentrer
plus tôt.
Arrête de me couper, pour finir. Sur Radonjić, justement, j'allais y venir. Radonjić, moi, je trouve pas que ce soit un très bon joueur. Je pense qu'on l'a payé trop cher pour ce qu'il vaut. Mais en tout cas, ce qu'il y a noté, c'est qu'en match de préparation, je les ai tous vus, il a été quand même assez intéressant. Mais il jouait couloir gauche. Ouais. Quand Villas-Boas le fait rentrer, là, sur le premier match où il est catastrophique contre Reims, il le fait rentrer couloir droit. Là, il est cataclysmique. Là, il le met couloir gauche, il est décisif parce qu'il est sur l'action du but. Donc Radonjić, même si je pense que c'est pas, ça sera jamais un foudre de guerre, si tu l'utilises bien, que tu le mets couloir gauche et pas couloir droit comme il avait fait auparavant, ça peut donner quelque chose. Mais voilà, ce que je déplore, c'est que Marseille a fait un bon match, mais que Villas-Boas aurait dû réagir un petit peu plus tôt.
C'est vrai que j'ai eu l'impression aussi qu'il a tardé un petit peu à faire des changements. Après, bon, voilà, je veux dire, on n'est pas sur le banc, donc il y a la pression supplémentaire et là, enfin, c'est différent, mais. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression, moi je pense aussi qu'il aurait dû faire un petit changement avant l'heure de jeu.
De système, de système.
Ça, j'ai eu l'impression aussi qu'il tardait un petit peu, après peut-être qu'il faisait confiance au mec sur le terrain, mais c'est vrai que oui, t'as pas tort sur ce coup-là. Et c'est vrai que Radonjić, c'est...
Couloir gauche.
On voit quand même qu'il a une marge de progression. Quoi.
Couloir gauche, ça doit être, c'est tout. Pas droite.
Ouais, c'est...
Moi, j'aime beaucoup ce qu'il véhicule et le caractère qu'il a surtout. C'est-à-dire que c'est
Radonjić.
Villas-Boas. C'est un homme à qui on n'impose pas des choses, quoi. C'est-à-dire qu'on a tous ici dans l'idée que Dimitri Payet devrait jouer numéro 10, à tort ou à raison. Hein. Mais lui, il reste droit dans ses bottes. Il te dit voilà, moi je vois l'équipe de telle manière. Je vois Payet à gauche et il met Germain à droite. Où on se dit mais Germain à droite, mais comment on va faire? Finalement, le plan était plutôt intéressant puisque Germain et Payet sont tendance à rentrer à l'intérieur. Donc, du coup, ils ont attiré cette défense à 3 qui avait tendance à bloquer l'axe. Mais j'ai pas le temps de finir.
Si, vas-y, très court. Ludo. Désolé, je t'ai vexé.
Si vous mettez la pub en même temps.
On continue.
Après.
Il est 23h, il faut qu'on fasse le top horaire. Et merci Nicolas d'avoir
été là.
Nicolas, on t'offre 2 places pour Rambo Last Blood, le 5e épisode. Les aventures de Rambo.
C'est pas ma guerre.
Ah oui, parfait.
Ouais, t'as pas l'air super ravi, mais on te les envoie quand même, tu sais.
Allez, bonne saison, Nicolas.
Ludo va pouvoir développer son avis dans un instant. On est à la bourre, tout de suite, c'est l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos. Putain, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin. C'est toujours assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero. Ça suffit. Ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Oui, non, le Calimero ce soir dans l'after. Ludo
si,
Brandac.
Ouais.
Ouais, je crois. Ludo Brandac boude parce que je l'ai coupé avant la pause.
Pas intéressant ce qu'il a dit.
Si, c'est intéressant.
Non, non,
Ludo Brandac, Jonathan McGardy, c'est l'after. On est là jusqu'à minuit. Ludo, je te rends la parole. Je sais que je prends un risque. Parce que tu n'es pas forcément obligé de la prendre.
Mais si, je vais la prendre.
Parce que, pareil, parce que t'as
parce que c'est
bien.
Toi, je vais la prendre.
C'est sympa. Voilà. Je suis touché. Marseille, match nul là partout. Tu voulais parler notamment de cas individuels défaillants.
Ouais, au-delà de ça, je voulais souligner le courage surtout de Villas-Boas, qui est forcément, il entend ce que les gens disent sur Dimitri Payet, puisqu'on lui a posé à maintes reprises la question, et notamment pourquoi pas mettre Dimitri Payet en 4-2-3-1. Je trouve que ces garçons dégagent une sérénité et une confiance en lui et en ses choix, qu'il transmet aussi à ses joueurs. Et du coup, il n'est pas obtus non plus au point de se dire bon, j'ai choisi de jouer comme ça. Tu vois, sur la dernière demi-heure, il a quand même tenté de mettre Payet à ce poste de numéro 10.
Il a été plus tranchant et à l'égalisation.
C'est lui qui décale, Radonjic sur l'égalisation.
Donc il faut qu'il joue.
Après, la tactique, je t'ai dit, était plutôt intéressante dans le sens où Germain et Payet, quand ils étaient sur les côtés, rentraient à l'intérieur. Donc ils venaient monopoliser l'attention de la défense à 3 Montpellier-Rennes. Et donc, ils ouvraient les couloirs à Bounassar et à quand tu as la qualité de centre de Bounassar et d'Amavi, eh ben il peut rien se passer. Et tu parles de Benedetto qui a été qui s'est un peu sacrifié au milieu de cette défense à 3, mais putain, quand je vois les appels qu'il fait sur les centres, je vois la qualité des centres au 3e, 4e,
il y en a pas un qui arrive.
5e poteau.
Il a fait 12 centres Bounassar.
Mais il est là le gros problème, c'est que
12 centres
l'OM avec deux latéraux de niveau un peu plus
médiocre,
élevé.
Ah oui.
Mais putain, ça serait le jour et la nuit.
Et défensivement, on en parle aussi défensivement des deux. Parce que Jordan Amavi sur le but, c'est encore pour sa pomme. Je suis désolé, mais j'ai l'impression. À la louche, je pense que 80% des buts de l'Olympique de Marseille viennent d'erreurs d'Amavi et de Bounassar.
Autant je me suis dit. Incroyable. Je me suis dit contre Monaco.
Il avait été bon.
Une lumière dans la nuit. Je me suis dit, putain, il a été bon, ça va lui donner ça va lui donner de la confiance.
Pourquoi il avait été bon?
Mais comment tu peux te faire piquer ce ballon-là dans un match ô combien important contre Montpellier, avec une telle dilettante à 20 mètres de ton but, mais c'est pas possible. Et après, prendre un jaune avec un tacle pas maîtrisé, c'est-à-dire qu'en 10 minutes, t'as quasiment condamné ton équipe.
Le problème, c'est, je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de sautes de concentration. Contre Monaco, je l'avais trouvé plutôt correct parce que défensivement, il avait tenu la baraque parce qu'il était beaucoup moins monté, il avait beaucoup moins pris son couloir. Là, forcément, il a été amené à faire plus d'aller-retour et plus participer au jeu offensif. Et forcément, bah voilà, déconcentration, des alignements toujours un petit peu douteux, litigieux. Et franchement, comment tu peux m'expliquer qu'après 3 saisons, t'en es encore à avoir le seul Jordan Amavi pour occuper ce poste-là? Mais Zubizarreta, c'est criminel ce qu'il fait à cette équipe. C'est criminel.
Troisième point, il faudra peut-être à un moment ou un autre installer Valentin Rongier. Parce que sa rentrée était très convaincante.
Oh là là, il perd un ballon dans les 40 derniers mètres.
Deuxième entrée.
Moi, je ne l'ai pas trouvé.
Je trouve que techniquement, tu sens, il va se passer quelque chose avec lui.
Moi, je ne l'ai pas trouvé.
Je te dis qu'il va se passer quelque chose avec lui. Ne sois pas si dur.
Non, j'attends de voir.
Il va falloir à un moment donné.
C'est un bon joueur.
Il faut
c'est un
le
bon joueur,
faire.
Mais c'est son entrée moyenne.
Il faudra faire commencer pour voir.
Un dernier truc quand même, parce que franchement, alors je veux bien Morgan Sanson était moins mauvais que d'habitude, mais je l'ai pas trouvé non plus trouvé transcendant.
Si, il a été bien.
Mais surtout Maxime
bien,
Lopez, deuxième match
Jonathan,
de très haut niveau. Là j'ai ses stats, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais c'est quand même 105 passes, 90% de passes réussites, 4 passes clés, 8 duels gagnés, 2 tacles réussis.
C'est un bon joueur.
Non, mais c'est pas, j'en ai marre à chaque fois, soit la tête de Turc. Non mais c'est non.
Incroyable.
Non, parce que Maxime Lopez c'est la tête de Turc, mais je suis désolé, ça sera pas le joueur qui ira.
Du Barça.
Mais arrêtez avec ça. On sait très bien qu'il ira jamais au Barça. Mais c'est un bon joueur de Ligue 1. Et il a 20 ans et avec une belle marge de progression. Donc c'est pas le cador que certains veulent nous vendre, mais c'est quand même un bon joueur. Okay. Donc on va suite de taper sur lui.
Il
tient la baraque au milieu du terrain aujourd'hui.
De Kevin Strott, parce que Marseille a mis énormément d'enthousiasme à attaquer. Ils se sont souvent retrouvés à 4, 5, 6 dans la surface de réparation. Et aux pertes de balles, Strootman n'a pas fait un grand match dans la construction du jeu,
mais il a fait
un bon match dans l'équilibre défensif.
Il gagne un duel à un moment côté droit, dans les pieds de Mollet, qui est hyper important.
Mais Pierre au 32-16.
Il a bien compensé.
Ludo, Pierre nous a appelé au 32-16, pendant de Montpellier quand même, qui a tenu bon au Vélodrome. Salut
Bonsoir,
Pierre.
Les gars.
supporter de Montpellier. Bon, tout à l'heure, on avait un Nicolas, supporter marseillais, qui a eu des mots très durs envers ton équipe, en disant clairement que c'est la négation du foot.
Mais il exagère.
Passons à Zakarian. Il y a beaucoup de réactions sur le hashtag RMC Live. Donc, Thomas Pinaroli qui nous dit tellement facile de taper sur Zakarian avec la frustration. Certes,
c'est pas bon,
il s'appuie sur sa défense, mais produit beaucoup de choses offensives. Le trio mollet, messieurs. Le trio mollet de Laure Laborde est une des trois meilleures attaques de Ligue 1 et ce n'est pas sans l'impact du coach Michel Dazakarian. Pierre, qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que Nicolas, tout à l'heure, était trop dur avec ton équipe?
Ah oui.
Bon, le supporter marseillais, déjà, bon, je voudrais lui dire qu'il devrait surtout analyser pourquoi son équipe n'a pas réussi à gagner.
Donc,
de critiquer la tactique de Dazakarian. Par contre, moi, voilà, je suis très déçu, très frustré ce soir parce que j'ai pas l'impression qu'on a mis tous les moyens possibles pour gagner ce match. Montpellier, en fait, cette saison, il y a deux visages. Il y a un super visage à domicile. On fait vraiment des très gros matchs.
En produisant du jeu.
Pardon?
Je te disais, en produisant du jeu, contrairement à ce que Nicolas disait tout à l'heure. Oui.
Bien sûr, en produisant du jeu, on est par le match contre Nice. Franchement, c'était un super match. Même contre Lyon, on a fait une grosse perf. Même on a perdu contre Rennes, mais on a eu, je sais plus, une vingtaine de tirs.
C'était un beau match.
On a eu des occasions et tout.
Le péno loupé aussi.
Mais à l'extérieur, au mieux, on joue une période bien et la deuxième période, on recule complètement, comme ce soir en deuxième période. On recule jusque dans notre surface de réparation. On laisse le ballon aux Marseillais. On est toujours à 10 mètres derrière le porteur du ballon. Donc on peut pas jouer comme ça, c'est pas possible. À la limite, on aurait une mauvaise équipe, pourquoi pas. Mais là, on a largement les moyens de faire mieux. On a des super joueurs. Marseille, même ce soir, ils sont pas meilleurs que Nice, c'est pas vrai. Ensuite, à la limite, bon, si Berzac il veut jouer derrière, il veut attendre les Marseillais. Bon, à la limite, c'est une stratégie, il veut jouer en contre, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il faut de l'agressivité. Il faut presser les Marseillais, il faut récupérer des ballons, il faut lancer des contres. Là, c'est à chaque match, je vois Delors et Laborde, ils jouent des 2 contre 4, des 2 contre 5. Ils font que courir partout, mais j'ai mal pour eux. J'ai vraiment mal. Je me demande comment ils arrivent à tenir dans ces conditions.
Ludo.
Non, je rejoins Nicolas sur le fait
Pierre.
Que Pierre, pardon, excuse-moi, sur le fait que Montpellier a su créer du jeu la saison dernière et cette saison, ils n'en seraient pas là, ils n'auraient pas fini à la place à laquelle ils ont fini la saison dernière si ça n'avait pas été le cas. Ce qui a été notable ce soir, c'est qu'ils ont presque marqué trop tôt dans le match. Tu sais, et après,
Bounas a marqué trois fois.
Ouais, pardon, excuse-moi. Oui, bon.
Qu'ils ont marqué trois fois.
Et que ce but, et que ce deuxième but annulé de Delors.
Tu dois pas annuler.
Bah, il a but.
Il a 2 cm de son épaule et de son pied qui dépasse.
Mais comme si à un moment donné, ils se sont dit, on a fait presque le plus dur, ça va pas tourner pour nous ce soir. Ils n'ont pas été dans un grand soir, notamment sur cette deuxième période, et ils se sont dit, et je crois que Michel Dazakarian a compris que ça serait pas pour eux ce soir. Donc c'est pour ça qu'il a bétonné et qu'il a fait rentrer surtout des joueurs plutôt à vocation défensive qu'autre chose, parce que Montpellier n'était pas dans un grand soir, si ce n'est les 15-20 premières minutes, et que par miracle, tu as réussi à leur planter quand même un but, et que tu te dis, un point au Vélodrome, même en étant dégueulasse, on va prendre quand même.
Ils ont
pas là, c'est tout. Mais ils sont pas coutumiers du fait, c'est pas vrai cette année Montpellier. Donc c'est un mauvais procès qu'on lui fait.
Manique Montpellier 12e de Ligue 1, 8 points pour l'instant pour les hommes de Michel Dazakarian. Merci Pierre d'avoir appelé au 32-16. Excellente soirée à toi. Messieurs, demain il y a le grand match, peut-être la première grosse affiche de la Ligue 1 ce début de saison. Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain. Ah oui.
C'est fini sur Marseille.
On a fait. Attends, on va faire 25 minutes.
Dernier petit mot rapidos.
10 secondes, chrono.
L'arbitre, lamentable.
Ouais, Villas-Boas, ça pétait un plomb.
Gestion du match, lamentable. L'arbitre.
Mention spéciale à Jordan Ferry, qui encore une fois a fait dégénérer le match. Ce garçon a d'énormes qualités footballistiques. Mais permettez-moi de douter parfois de son fonctionnement.
Moi, j'adore.
Du fonctionnement de son cerveau.
J'adore, parce que si je l'ai dans ton équipe, tu l'adores. Il est contre toi, tu le détestes.
Pas ce soir. Je trouve qu'il a dénaturé une belle fin de match qui aurait pu apporter peut-être.
Il a pourri le match au moment où il sentait que Montpellier était en train de perdre pied. Moi, je trouve que c'est mal.
Demain, Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain.
C'est juste fait prendre comme un enfant par la tête.
21h.
Par l'état de ça.
Tiens, messieurs, le groupe parisien décimé par les absences. Cette absence. Mbappé. Icardi, Kerrer, Sarabia, Cavani, Draxler, Dagba absent, Hécatombe, Neymar est bien là,
Tourelle a intégré un gamin, 17 ans, Arnaud Kalimuendo, attaquant, formé au PSG, ouais, qui plante but sur but en ce début de saison, qui n'était pas pourtant forcément annoncé comme l'un des premiers à intégrer l'équipe première, mais bon, il est en pleine bonne croissance, c'est un peu inattendu. Il sera là dans le groupe, la compo probable du PSG signé Loïc Tanzi pour ce match à Lyon, Navas évidemment, Bernat, Kimpembe, Thiago Silva Meunier,
ouais,
Marquinhos, Verratti, Gueye, Neymar, Di Maria, Choupeau.
Bon, ça gagne de la gueule.
Ah oui, on est pas loin de l'équipe qui a battu le Real quand même là.
Oui, mais ça a quand même de la gueule. Ils ont un effectif qui est tellement large, avec un banc qui est tellement profond, avec l'arrivée d'Icardi, de Sarabia et compagnie, que voilà, l'équipe que t'alignes, c'est quand même une équipe qui est ultra compétitive et qui peut aller à Lyon avec beaucoup
sans
de certitude. Sans problème, non, on ne sait pas, parce que Lyon, c'est quand
Lyon,
même une équipe de la qualité.
C'est la bête,
oui, mais Lyon, un mois sans victoire, messieurs. Hein.
Bah, justement, déjà, c'est Vigno. Et il n'y a pas de meilleur moment pour rebondir. Il n'y a pas de meilleur adversaire pour rebondir.
Lyon, c'est vrai qu'historiquement a souvent gagné contre le Paris Saint-Germain. Je me rappelle encore, on parlait d'une frappe somptueuse de Jordan Ferry contre le PSG.
Si tu veux.
Juste, je pense que là, Silvinho, c'est quand même un petit peu exagéré de dire Silvinho sous pression, parce que en fait, l'anomalie, c'était que les débuts soient si convaincants. Ouais. Il arrive, t'as un nouveau projet, tu changes beaucoup de choses dans ton club. Faut lui laisser un petit peu de temps. C'est vraiment un changement de paradigme pour l'Olympique Lyonnais. Tu rentres dans une nouvelle ère.
Ah, le mot est lâché,
trop...
paradigme.
Non, mais c'est trop.
C'est à Paris?
Non, pas du tout. Hein, c'est juste l'emploi complet de la langue française et de ses nombreuses possibilités. Non, mais c'est juste, c'est tout à fait normal qu'ils mettent un peu de temps à se mettre en place. Après, effectivement, si tu te prends une rousse contre le PSG, ça peut être un petit caillou dans la chaussure quand même.
Ah bah clairement. Il est clairement déjà un tournant, Silvinho.
On va pas lui en vouloir de perdre 3-2, 3-1 demain soir.
Il faut montrer quelque chose. C'est le compte.
Au moins montrer quelque chose.
Non, je pense que c'est un PSG qui est fortement diminué. C'est le moment pour Lyon opportun de pouvoir rebondir. C'est vrai qu'une défaite, ça ferait tâche, parce que ça accentue la période de non-victoire, et que il va y avoir tout doucement une pression qui va s'accentuer autour de Silvinho. Elle a déjà commencé d'ailleurs, mais il faut au moins que dans l'état d'esprit, voilà, il peut y avoir que les choses se mettent en place sur le plan du jeu, sur le plan de beaucoup de choses, on peut le comprendre. Maintenant, sur l'état d'esprit, Lyon doit être irréprochable,
ouais, mais...
sur le match de dimanche. Sinon, cela voudra dire qu'il a, peut-être comme l'ancien entraîneur, il n'arrive pas à sublimer ses joueurs et qu'il a peut-être pas la main sur son vestiaire. Donc c'est un match déjà important pour lui.
Ils ont besoin d'une victoire fondatrice, parce que même si les débuts semblaient être paradisiaques, on n'avait que du bien à dire et à analyser de l'Olympique Lyonnais. Là, on sent que les joueurs sont quand même un petit peu crispés. Il y a des choix, ouais, qui sont faits. J'ai encore en tête la sortie de Dembélé, je sais plus sur quel match, il y a 2-3 journées, qui sort sans serrer la main de l'entraîneur, assez énervé. Donc une victoire est impérative, parce que le groupe peut bien vivre que si tu gagnes. Après, attention, Lyon, c'est une équipe qui se sublime dans les gros matchs face à des gros adversaires, donc c'est alléchant.
Même au-delà d'une victoire, Jonathan, je pense qu'on attend du répondant.
Oui, en tout cas,
voilà,
ouais, du caractère.
Il faut du caractère et du répondant. Après, le Paris Saint-Germain reste le Paris Saint-Germain. Les supporters savent ce qu'il en est. Mais demain, faut montrer autre chose que sur les trois derniers matchs, et notamment sur le dernier match de Ligue des Champions.
Côté parisien, j'ai envie de revoir Idrissa Gueye également. Ouais. Voir s'il confirme, ouais, vraiment ce qu'il a fait mercredi soir face au Real Madrid. Tu peux nous faire du Rambo encore, imitation Rambo?
C'est pas ma guerre.
Ok, donc ça passe pas du tout. Fiat Marseille, sur chaque RMC Live, dit que c'est nul.
Il a raison, c'est nul.
Ton imitation de Rambo, on aurait plus dit Patrick Bruel que Stallone.
Mais il a raison, il a raison.
Casser la voix, tu sais faire?
Non.
Voilà. On vient dans un instant avec le séisme en Espagne. La défaite du FC Barcelone face à Grenade, 2-0. Fred Hermel nous attend, il est déjà connecté. Comme toutes les drôles de dames, le Barça battu malgré l'entrée en jeu de Messi en deuxième période. Le Barça, un Barça record quasiment, qui a déjà perdu deux fois en l'espace de six matchs en Liga et qui perd des points. Grenade leader. Surprise de Liga, incroyable. On en parle avec Fred Hermel, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot, Nicolas Jamain.
Jonathan Bacardi, Ludovic Obraniak, c'est l'After, on est ensemble jusqu'à minuit. Place désormais aux drôles de dames, on va partir en Italie.
On va partir pas notre débat là.
En Allemagne,
même pour la pub.
C'est un débat très intéressant qu'il faudra mener un jour, effectivement, sur de moins en moins de nudité autorisée dans les vestiaires de football. Ça avait fait un dossier dans l'équipe magazine, il y a quelques semaines. Très intéressant. On en parlera un jour, effectivement, c'était le débat. Donc, messieurs, avant d'accueillir Simone Rovera, avant d'accueillir Paulo Breitner et Julien Laurence, pour évoquer notamment le carton de City 8-0 aujourd'hui face à Watford. D'abord, une explosion, un séisme, Grenade, a battu le FC Barcelone. Salut Fred Hermel.
Ah ben c'est ça les ligas compétitives.
Hola chicos.
Alors quand ça arrive en France, quand je sais pas, quand Amiens est troisième de Ligue 1 après 4 journées, on dit mais qu'est-ce que c'est pauvre la Ligue 1 pour qu'Amiens soit en tête. Et quand Grenade est en tête de la Ligue 1, parce que c'est le cas actuellement,
sauf que Fred
c'est
est
une Ligue 1 compétitive.
Sauf que Fred est un mot commercial.
C'est un bon verre.
C'est un excellent verre.
Ah ben je n'en doute pas.
Fred, donc oui, bah c'est un séisme. On est d'accord.
Bah, c'est une grande. Bah,
2-0 Grenade
pas,
ce soir.
Le problème pour le Barça, c'est pas de perdre 2-0 ce soir à Grenade, c'est que le Barça a perdu 8 points sur 15 possibles depuis le début de la saison.
C'est énorme.
Tant t'imagines.
Ça fait combien de temps, Fred?
11 ans.
25 ans. Ça fait exactement 25 ans que le Barça, au bout de 5 journées, on était là.
Et qu'est-ce qui cloche, Fred?
Tout.
Messi a joué, pourtant. Il est entré, Messi, là.
Ouais, Messi, il a 6 entraînements dans les jambes cette saison. Il n'a pas fait la pré-saison, il était blessé. Enfin, l'après-saison, l'avant-saison, comme on dit en français. Et donc
pré-temporada.
Messi, il faut du temps. Mais il s'est blessé au moment où bah, enfin, tu sais, Ludo, le travail de l'été, hyper important.
Tu capitalises toute la saison là-dessus.
Et là, il a pas pu faire, il s'est blessé.
En plus, il avait la Copa América dans les pattes.
Voilà, donc il faut pas. Alors, et d'ailleurs, il a joué en deuxième partie. Et il est rentré vraiment à la 46e après le repos. Mais il a pas le coup de rein. Enfin, et comme Grenade était une équipe vraiment qui est portée, qui avait déjà 2 victoires cette saison, qui est portée. Ça aussi, il y a un effet. Un peu spécial d'un club qui vient de monter. Vous le savez, quand on monte, on vit pendant quelques semaines
c'est
encore.
C'est un promu, hein, Grenade.
Ben c'est pour ça.
Bien dire.
Voilà, comme oui, t'as raison de le préciser, parce que ils sont encore sur la dynamique de la montée de l'an dernier. Donc il y a quelque chose de spécial qui se passe, mais le Barça est pas bien. Griezmann, ça n'a pas trouvé sa place ce soir. Suarez, il est pas bien. Et puis au milieu de terrain, il n'arrête pas de changer son milieu de terrain.
Frankie De Jong, Sergio Roberto et Rakitic ce soir.
De Jong dans la défense.
C'est premier match comme titulaire cette saison. Rakitic, il fait des essais, ça marche pas. Et puis en défense, c'est vrai que Piqué était très nerveux. Il aurait pu être expulsé. L'anglais a fait un mauvais match. Alba est blessé. Il s'est blessé l'autre jour à
Firpo Junior, c'est ça?
À Dortmund. Oui, enfin lui, il a fait.
C'est qui lui?
Bah, l'ancien du Bétis.
Oui. Mais
et il est sorti lui. À la mi-temps.
À la mi-temps.
Et les meilleurs qu'à ma vie ou pas?
Je sais pas.
Attention, il y a match. Allez, parce qu'à ma vie, c'est quand même dur.
Non, attends, je vais te faire l'équipe quand même. Ter Stegen dans le but, Firpo Junior à gauche, l'anglais piqué dans l'axe, Semedo, Sergio Roberto, Frankie de Jong, Rakitic, Griezmann, Suarez, Perez, Sayol. Dido?
Non, je voulais savoir si, forcément, l'analyse de Fred sur Valverde, est-ce que c'est pour toi le responsable est-il menacé?
Il était déjà menacé en fin de saison dernière. La majorité des dirigeants, des membres du conseil d'administration voulaient le virer. Et c'est le président Bartomeu qui a tenu bon. Parce qu'il faut se souvenir que l'an dernier, il y a eu cette claque prise à Liverpool. Et puis la défaite en finale de la Coupe du Roi face à Valence. Donc il a été à deux doigts de partir. Là, on peut dire qu'il est pas bien. Il n'est pas dans une situation confortable.
Alors que c'est un bon entraîneur, Fred.
Mais bien sûr que c'est un bon entraîneur. Moi, je l'aime beaucoup. Mais il y a quelque chose qui
cloche. Il ne maîtrise pas grand-chose, là.
Mais oui, j'ai l'impression, c'est bizarre.
Fred, est-ce que ça t'est déjà arrivé que le Barça et le Real soient en difficulté aussi rapidement et que ces deux entraîneurs soient déjà menacés si tôt dans la saison?
Ouais, je pense pas que Zidane soit menacé et je pense pas que Valverde soit menacé. Valverde, il porte le fait qu'il a failli partir déjà au mois de juin. Tu vois, donc ça vient de plus loin. Mais il va pas se servir ce soir, ce serait très étonnant. Mais il y a une sorte de... Même physiquement, ils sont pas bien, quoi. Voilà. Donc après, moi, les équipes qui sont en pleine bourre au mois de septembre, je veux jouer au mois d'avril. Ouais,
t'as raison.
On va y aller doucement, quoi. Il y a une mauvaise passe à faire là.
Le Real peut être leader en plus s'il gagne là.
Mais regardez le ridicule du football et l'extraordinaire du football en même temps. C'est-à-dire que tout le monde crache sur le Real. Le Real, ça va mal.
S'ils gagnent, ils sont leaders.
Ils sont leaders avec 4 points d'avance sur le Barça et 2 points sur l'Atlético. Tu vois, donc ça va très vite en 2 jours le football. Puisque l'Atlético fait match nul.
Un mauvais 0-0 contre Celta Vigo à demi. Aussi, quoi.
Ben
tout le
oui,
monde piétine finalement. Ouais.
Oui, mais... tout le monde piétine. Et puis après, la Ligue des Champions, bah, ça pèse dans les jambes, on le sait. Donc,
bien sûr, t'as raison là-dessus.
Là aussi. Et puis Séville, ils ont joué à En Azerbaïdjan, jeudi soir en Ligue Europa, ils ont gagné, mais enfin, c'est un voyage. Je crois que c'est le plus long voyage pour un club espagnol.
Je crois qu'ils ont l'effectif pour faire tourner quand même. Ils ont une profondeur de
banc. Oui, il avait fait tourner là-bas, mais le voyage, je sais plus quoi, c'est 6 heures d'avion, un truc comme ça, ou 7 heures d'avion. Enfin, c'est ça aussi, ça sera dans les jambes. Donc, voilà, quand tu joues l'Europe. Mais voilà. Après, en fait, le Barça a des problèmes depuis un long moment, sauf que Messi et Ter Stegen, en général, maquillent le résultat.
C'est ça, ouais.
Parce que, sauf que là, Ter Stegen, ce soir, il a pas arrêté. Il y a eu un pénalty contre le Barça. Il a pas arrêté comme c'était le cas à Dortmund l'autre soir. Il a pas été extraordinaire. Il a même failli faire une couille, mais incroyable pour lui.
Surveillez votre langage, monsieur Hermel, s'il vous plaît.
Bah, une couille, c'est pas sale, hein.
Certaines sont propres et pareilles. Griezmann, Fred, tu l'as trouvé comment ce soir?
Perdu.
Mais à part son match là où il fait la célébration avec les paillettes, est-ce qu'il a fait d'autres bons matchs avec le FC Barcelone?
C'est celui-là, le seul, c'est contre le Betis, le seul match.
Mais quand tu dis perdu, Fred, dis-nous concrètement, c'est-à-dire quoi, sur le terrain, dans son positionnement.
Il est à gauche c'est en première période. Ouais. Après, avec les changements, il est à droite et il trouve pas sa place. Il comprend pas le jeu des autres. Je pense que il y a le gros problème de Griezmann, c'est qu'il vient d'un style de jeu qui est quelque part à l'opposé de la philosophie du Barça. Quand tu viens de l'Atlético, de Simeone, avec le corset défensif, etc., et que tu arrives au Barça, bon, il faut s'adapter à un nouveau style de jeu.
Rappelez-vous du Turc, là. Comment il s'appelait qui avait atterri au Barça?
Arda Turan,
qui avait toutes les difficultés du monde, alors que c'était un bon joueur.
Mais en fait, Arda Turan, vous savez pourquoi il était au Barça? Parce qu'il voulait pas courir. Il dit, bah, au Barça, c'est
bon. Oui, c'est bon, on a la balle. On est peinard.
Griezmann, sur un côté, Fred, c'est quand même de la confiture donnée au cochon, quoi.
C'est son premier poste à la Real Sociedad.
Ouais, mais là où il s'est vraiment épanoui à l'Atlético, c'est dans l'axe.
Oui, c'est dans l'axe et souvent il aime bien jouer avec un mec derrière le
dos. Est-ce qu'il a fait tourner Valverde ce soir? Parce que je regarde le banc.
Mais le problème, c'est que
Busquets, Arthur, Vidal.
Non, mais on ne sait pas quelle est l'équipe type de Valverde.
Au milieu, surtout.
Il fait tourner, puisqu'il fait tourner depuis le début de la saison, parce qu'il cherche encore.
Donc ça veut dire quand De Jong est là, Busquets ne joue plus, c'est ça?
Non, si, les deux ont joué ensemble beaucoup.
Ils ont joué ensemble à Dortmund, mais ça s'est pas bien passé. Donc, il est en train de chercher.
Donc il voulait absolument se séparer et titulaire.
C'est le premier de la saison quand même. Hein, donc,
Fred, demain le Real. On va revoir le Real après sa claque subie au Parc des Princes. 3-0. Ouais. Tu as dit tout à l'heure, c'est intéressant que pour toi, Zidane n'est pas menacé. Il était en conférence de presse, tu l'as rencontré d'ailleurs. Zidane.
Bah oui, je suis là pour ça.
Hein. Oui, non, mais tu es là pour ça évidemment. Tu nous as envoyé ça. On va l'écouter, Zidane, tu nous as envoyé ça d'éclat. C'est demain soir à 21h. Effectivement, ironie du sort, le Real peut être leader demain soir. Hein. En cas de victoire sur la pelouse de Séville. Mais il y a quand même une certaine pression sur ce match, Fred.
Oui, bien sûr. Bah, bien sûr. C'est énorme.
Tu prends 3-0 en Ligue des Champions.
Mais c'est la plus grosse défaite en Ligue des Champions de Zidane sur le banc du Real. Donc, bien entendu, il y a une pression. Donc, moi, je lui ai posé la question. Maintenant, voilà, on connaît ta réaction juste après la défaite à Paris. Mais là, tu as passé 3 jours avec tes joueurs. Tu as dormi, tu as réfléchi, tu as revu le match. Est-ce que tu es inquiet? On va écouter Zidane.
On l'écoute.
De toute façon, je serai jamais inquiet. Maintenant, en fait, c'est le prochain match qui compte. Et le prochain match, c'est celui de demain. Le prochain match, c'est celui qu'il faut qu'on aille gagner. Parce que le reste, de toute façon, ça sera tout le temps comme ça. C'est-à-dire que même si on gagne 2 matchs d'affilée, même si on gagne demain, le match d'après, en fait, on redira la même chose. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est parce que, c'est faire de l'analyse de ce qui s'est passé, essayer de s'améliorer et avoir un match pour changer la donne.
Attends, il est vraiment pas inquiet. Il avait la tête d'un homme inquiet mercredi soir.
Mercredi
soir, oui, mais c'est la raison pour laquelle je lui ai posé la question. Voilà, maintenant t'as dormi, t'as réfléchi, voilà, parce que quand tu te prends 3-0 en Ligue des Champions, c'est évident que t'es pas bien. Ta première réaction, c'est de tristesse et voire de désespoir. Sauf que là, ils ont parlé. Puis demain, il y a le retour de Ramos, quoi, et ça change tout, quoi. Parce que Ramos, c'est le même s'il y a plusieurs leaders techniques dans cette équipe, à commencer par Karim Benzema, le leader mental, c'est Ramos. Je sais pas si c'est avec vous, je le disais, ou c'était en début de semaine. Lundi, j'ai pu traîner un peu mes guêtres du côté du centre d'entraînement, et un joueur avec qui je m'entends bien m'a dit, attention à Paris, on n'a pas Ramos, quoi. Et ouais, et ça s'est senti, hein, dans le fighting spirit, comme disent les Irlandais, hein.
Ouais, exactement.
Tu vois, ben il y avait pas ça. Et Ramos, en plus à Séville, où il se fait siffler parce qu'il a été formé à Séville et qu'il est très mal accueilli là-bas. Je pense que c'est au courage que ça peut se régler. Mais bien entendu que le Real ne joue pas bien. Bien entendu qu'il y a un vrai gros problème au milieu de terrain parce que Zidane n'a pas eu le joueur qu'il voulait, qui était la pierre angulaire de son projet, de son nouveau projet sportif,
Pogba.
Qui s'appelle Pogba. Donc voilà. Mais tu sais, le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'Atlético qui fait match aujourd'hui, le Barça qui perd, bah, naturellement, oui, sans rien faire, attends, la situation de Zidane, Fred, elle est un petit peu moins mauvaise qu'il y a deux jours.
Fred, de toute manière, faut être très clair sur le Real Madrid. Il y a eu beaucoup d'achats, beaucoup de recrues qui, pour l'instant, ne se sont pas vraiment intégrées totalement, à l'image d'Eden Hazard. Il y a eu du retard à l'allumage, mais quand toutes les recrues se seront adaptées, oui, au Real Madrid, ça risque quand même de mieux tourner.
Ou pas. Fred,
si Hazard, attends, enfin, si c'est, non, mais Hazard, enfin, excusez-moi, enfin, Hazard, là, il y a encore quelques kilos de trop, il n'a pas le rythme, mais Hazard, il est un des meilleurs joueurs du monde. Enfin, heureusement,
mais Fred, mais c'est incroyable que ça fait quoi? Ça fait un mois qu'il est arrivé à Madrid. Non, il est encore des kilos de trop.
Non, non, il a été blessé en plus. Il a été blessé pendant trois semaines, donc ça aide pas à se préparer. Voilà, mais on est d'accord.
Je serais curieux de savoir, tu sais que j'ai une amitié particulière pour Grégory Dupont, qui est devenu le nouveau préparateur physique du club.
On l'a présenté lundi. On a bien parlé pas tout ensemble.
C'est un amour.
C'est un super mec.
Ouais, c'est un super mec. Ouais. Et avec beaucoup d'humilité et toujours à l'écho. Enfin, un super mec. Qu'est-ce qu'on en dit là-bas? Est-ce qu'on parle de lui ou...
Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu des petites critiques parce qu'il y a eu des blessures musculaires. Mais il y a des blessures musculaires à Paris, il y a des blessures musculaires au Barça. Le jour où les grands clubs comprendront que l'été, il faut aller en Autriche ou en Suisse au frais et travailler et pas faire des tournées à 40 degrés avec 80% d'humidité aux États-Unis en Asie, eh ben il y aura moins de blessures musculaires.
Non, mais ça n'a pas de l'argent, ça, Fred.
Mais je veux dire, mais dans ce cas-là, il faut pas se plaindre quand il y a des blessures musculaires.
Exactement. Donc,
Grégory Dupont a été un peu critiqué en disant oui, c'est quoi la préparation physique, etc. Mais bon, vous savez ça mieux que moi. Enfin, toi qui as joué au foot, c'est pas maintenant que ça compte. Enfin, on est toujours, un joueur est toujours fragile en début de saison.
Ouais, mais c'est au printemps,
que ça se voit le niveau.
Ouais, je sais, mais tu sais quand même que ils l'ont dit clairement cette année, ils veulent prendre la Liga. Donc, le fait que le Barça soit malade, t'as une occasion quasi inespérée sauter sur l'occasion pour déjà grappiller tout de suite des points. Donc, le début de saison est donc du coup très important.
Ça peut faire 4 points d'avance. 4 points d'avance, ça te permet de chuter à Barcelone le 23 octobre dans le derby, dans le Classico, tu vois. Donc c'est... Ben, en fait, on va voir demain, parce que peut-être que demain soir, je vous dirais, ben non, le Real a perdu 3-0. Mais la situation ce soir, elle est un petit peu moins mauvaise. Mais
Fred, demain, aussi si bien pour le Real perd, si le Real perd demain, Fred, comment ça peut évoluer cette situation? Parce qu'il y a une énorme pression médiatique, populaire également, autour de Zidane.
Mais il n'y aura pas de problème pour Zidane.
Aucun problème demain en cas de défaite à Séville.
Non.
Ok. Bon.
Non, mais attendez. Enfin, Florentino Pérez a appelé au secours le 11 mars dernier.
Oui, mais bon.
C'est pas pour le virer. Non, mais c'est pas. Enfin, non. Enfin, je veux dire, il faudrait qu'il perde à Séville. Il faudrait qu'il perde à contre l'Atlético. Il faudrait qu'il perde à domicile contre Bruges. Enfin, voilà. Il faut
pour l'instant immunité.
Comment, pardon?
Pour l'instant immunité.
Ben, c'est même pas une question d'immunité. C'est une question de bon sens. On ne vire pas un entraîneur comme Zidane, qu'on a appelé à la rescousse, quasiment comme un service personnel.
Il a jusqu'à l'hiver, au moins.
Au mois de mars, oui, voilà.
Et même jusqu'à la fin de la saison, je pense. Ça m'étonnerait qu'il le vire en cours de saison.
Enfin, après, il faudrait vraiment que ce soit catastrophique.
Oui, bah oui.
Alors, ça a été catastrophique à Paris, mais il faudrait que ce soit catastrophique dans toute une série de matchs.
Ouais.
C'est ça qu'il faudrait pour dire, voilà, dans ce cas-là. Mais aujourd'hui, il y a une question qui a été posée en espagnol à Zizou, en disant, mais est-ce que tu sens l'appui de tes dirigeants? Il dit, bah, bien sûr, je sens l'appui de mes dirigeants. Enfin, mon club, bien sûr, je veux dire, il n'y a pas de problème. Et il me dit, le jour où je l'aurais pu, je partirais, hein.
Bien sûr.
Voilà, donc, après, il y a toujours des gens qui parlent dans son dos, mais ça, c'est tous les clubs. Vous savez, les dirigeants, même quand leur équipe elle gagne 5-0, il y en a toujours un pour trouver quelque chose à redire contre l'entraîneur. Vous savez comment sont les dirigeants. Ils pensent souvent connaître mieux le foot que les footballeurs et les entraîneurs. Donc
c'est quoi? C'est une légende, ça, que Pérez devrait débourser 80 millions d'euros s'il se séparait Zidane?
C'est du n'importe quoi.
C'est du grand n'importe quoi. On est d'accord.
Qui t'a dit ça?
Ça sort un peu partout, là. Mais c'est.
Mais non, tu me laisses 30 secondes pour parler de ça? 30 secondes. Zinedine Zidane, en 2006, quand il décide d'arrêter le football, il a dans son contrat une clause logique, parce qu'il avait encore un an de contrat, qui dit même si tu t'arrêtes, tu as automatiquement droit à 12 millions d'euros bruts, 6 millions nets. C'était d'aller le toucher. Et Zidane dit ben c'est moi qui pars, donc je prends pas cet argent. Ah. Et ça, c'est facile à vérifier parce que les comptes du Real sont publics, puisque c'est une association, etc. Voilà. Quand Zidane signe. Son contrat d'entraîneur du Real Madrid, il ne parle même pas d'argent. C'est-à-dire que Florentino l'appelle et il ne négocie même pas le salaire. C'est deux jours après, au moment où il faut faire le contrat, que le directeur général dit bon, tu vois, Zidane gagnait trois fois moins que Mourinho, deux fois et demi de moins qu'Ancelotti et deux fois et demi de moins que Benitez quand il a pris le Real. Si Zidane aimait l'argent, ça se saurait.
Ok. T'aimes l'argent, Fred ?
Ah, moi, oui.
Moi, c'est net.
Oui, mais non, j'aime l'argent.
Et comme Fred, comme Fred Hamel n'est pas une association, ses comptes ne sont pas transparents. Ouais. Donc, on ne sait pas combien.
Non, mais non, tout ça pour dire quoi ? C'est que jamais Zidane ne ferait mettre dans son contrat une clause qui dit si vous me virez 80 millions. Mais c'est tellement n'importe quoi.
Et en plus, avec le livre qui vient de sortir, les Tintin, elles vont tomber, je te le dis. Hein. Voilà, va falloir aller voir.
T'as raison.
Peut-être qu'il C'est pas encore sorti. Il faudra attendre un petit peu.
Merci, Fred.
J'ai l'avance, Fred.
Bravo pour ton livre, en tout cas, Fred.
Ouais, excellent livre.
Merci.
Ciao, ciao.
Que j'ai pas encore lu, mais que je vais lire.
Ciao, Fred.
Bonne soirée, Fred. L'Italie, la Serie A, évidemment. Grosse journée en Serie A. Simone Rovere est avec nous. Salut, Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Salut, Simone. Est-ce que tu aimes l'argent, Simone?
Bah, bien sûr.
J'adore les gars. Ils sont bons.
Pas autant que Fred Hermel, mais bon.
Gros après-midi en Serie A. On va s'intéresser à deux matchs, notamment au derby milanais. Le Milan AC qui recevait l'Inter. Bah, ton Inter, on va pas le cacher, hein, Simone. Hein. Qui est leader encore de Serie A. Quatrième match, quatrième victoire. Et là, l'histoire est marrante parce que l'Inter gagne 2-0 à San Siro face au Milan. Sur des buts de Brozovic et Lukaku, on en parlait hier.
Ouais. Ah oui, il y a tous les supporters de l'Inter qui disent on devrait faire les discuter plus longuement chaque match, même après les matchs, une des commentateurs sur la chaîne italienne qui transmettait les matchs, un des consultants, Dejan Stankovic, disait bah vous voyez ça, c'est bien de se disputer dans le vestiaire si ça termine comme ça. La personne plus heureuse c'est sûrement Antonio Conte qui a parlé même de petites faux pas qu'il y a eu cette semaine en Ligue des Champions. Il a dit ça nous donne plus envie, ça nous a donné plus d'envie. Donc une Inter qui a faim, qui a montré d'avoir pour moi une différence, des niveaux de qualité des jeux et des projets en rapport au Milan. Aujourd'hui Milan est deux années derrière l'Inter à niveau de joueurs prêts pour le plus haut niveau. Je ne dis pas que le projet n'est pas bon du Milan, mais c'est un projet en devenir. L'Inter, avec les mercato qu'il a eu cet été, avec des joueurs comme Lukaku, qui marque un but pour moi extraordinaire, parce que oui, ça semble simple, un but de la tête, mais il prend de l'anticipation sur Romagnoli, pas n'importe qui, un des meilleurs jeunes défenseurs italiens, avec une force physique, une timing et une rotation de la tête, vraiment très très belle, très très belle action de Lukaku sur ses deuxièmes buts de l'Inter. Mais globalement, pour moi, il y a eu équilibre pour 20 minutes. L'Inter est totalement supérieur. Deux buts, trois poteaux, un poteau aussi pour Milan. C'était un derby plutôt spectaculaire en deuxième mi-temps, un peu tendu sur les premières 15 minutes. Et après, tout a changé avec le but de Brozovic. Un but un peu étrange parce qu'il y a une déviation sur la frappe de Brozovic et Lautaro est plutôt sur la trajectoire. Donc, même un petit embrouille avec le VAR avant qu'il soit validé. Mais globalement, il y avait vraiment un écart de niveau énorme ce soir entre Milan et Inter, et les 2 euros c'est même un résultat un peu court pour l'Inter qui surtout après le deuxième but a eu des occasions pour marquer les troisièmes plusieurs fois. Donc bonne victoire de l'Inter, mais la saison est encore très longue, personne veut parler du titre. On a demandé à Lukaku après le match la lutte pour le titre, lui il a dit je parle pas de ça, parce que on sait très bien que plusieurs fois, même avec Spalletti, avec Mancini dans les saisons avant, on avait vu l'Inter bien commencer, 4 victoires, 5 victoires première jusqu'à décembre, et après tout s'est écroulé avec Antonio Conte. Je sais pas si ça va arriver, parce que cette équipe pour moi a déjà les marques de Conte, et avec Conte c'est difficile.
Ah, tu sens vraiment déjà la patte Conte dans le jeu l'Inter?
Un peu dans les jeux, mais énormément dans les caractères.
Dans le caractère.
C'est une équipe qui tout le voit. Après, dans les jeux, oui, parce que il y a des changements de côté rapide, il y a des percussions, il y a les milieux qui participent énormément au jeu. Mais cet été, c'est arrivé. Stéphane Ancel ici, encore plutôt bon ce soir, même si pas bon comme dans les premières matchs de la saison. Et Barella qui petit à petit est en train de s'intégrer. Donc tu prends deux joueurs d'énorme qualité, d'énorme dynamicité,
dynamisme,
très dynamique, ouais. Dynamisme, et tu les vois sur le terrain.
Simone, la Juve s'est imposée également, mais c'était compliqué face à Vérone. On en parlait hier, hein, on teasait le match, toujours sans Rabiot, on est d'accord, hein, pas une minute.
Bah, pas en minute, mais pour faire un discours plus global, la même situation, nous on parle d'Herbium, la même situation, c'est pour Emre Can. Emre Can est même dehors de la liste Champions League, lui aussi 0 minute, 30 minutes en saison pour Emre Can, 27 pour Rabiot. Par contre, pour les choses un peu plus positives, mais parce qu'il y a quand même des choses intéressantes, une titularisation pour Ramsey qui marque un but. La Juve, oui, difficile face à Vérone qui joue bien, hein, qui met en difficulté la Juve.
Un but exceptionnel de Vérone.
Un but penalty. À moitié gag.
D'abord, il y a penalty. Voilà.
Penalty dédié à Armine Poteau. Les premières qui arrivent, c'est Lazovic. La porte vide, la porte libre. Barre transversale. Et juste derrière, Lazovic met un but à 26. Lazovic, Michael Veloso met un but à 25, 6, 26 mètres. Magnifique. Qui trompe Buffon, Gigi Buffon, meilleur sur le terrain pour moi de loin. Ah. Extraordinaire, fait deux arrêts dont une à la fin qui sauve le match et sauve pour moi un peu plus que le match, parce qu'imaginez si la Juve faisait match nul à domicile face à Vérone avec une équipe qui a été pas très similaire, parce qu'il y a eu cinq changements au début, mais qui a fini d'une façon très similaire à celle de l'Atlético, parce que les trois joueurs qui a fait rentrer Sarri en deuxième mi-temps, c'est donc Pjanic, Khedira et Higuain. Donc, même quand il ne les fait pas jouer titulaire, ses soldats, ses titulaires, il arrive à la fin du match.
On l'a dit, hein, on le connaît, il ne tombe pas beaucoup. Hein, il reste avec 14-15 joueurs. Hein, c'est toujours ça.
Bien sûr. J'ai demandé à Sarri, hein, à la fin de la conférence de presse, qu'est-ce que doit penser Adrien Rabiot quand il voit Matuidi qui fait un très très bon match. Et à les 93e minute, 82e, il s'est fait deux occasions, dont une provoque les cartons rouges pour Vérone et qui mit un terme, on peut dire, à l'offensive de Vérone pour chercher les légalisations. Et simplement, Maurizio Sarri m'a répondu, Matuidi, c'est un grand joueur, il fait une énorme début de saison. Et donc, on doit l'utiliser, on doit utiliser ça. Et Rabiot doit penser qu'il doit être heureux si un joueur comme Matuidi fait un gros début de saison. Peut-être, sûrement, il aura sa chance plus tard. Aujourd'hui, Matuidi est en super forme, c'est un super joueur, donc c'est normal qu'on continue à l'utiliser.
Ok, Ludo. Il doit se dire, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été moins con?
Surtout ça, léger, j'aurais
dû m'imposer au Paris. Cristiano, ça commence à prendre forme, hein, la complicité. Ouais.
Très court, Simonet, il faut qu'on y aille.
Bah, alors, sur certaines phases, oui. Après, Dybala, moi, je veux que s'il joue avant-centre, soit dangereux aussi dans les 20 derniers mètres. Donc, un peu plus, on verra. C'est un premier match. Moi, il faut voir dans la continuité, attention, parce que mardi, déplacement à Brescia et premier match de la saison pour Mario Balotelli qui a purgé ses 4 matchs de suspension qu'il avait pris la saison dernière avec Marseille. Donc voilà.
Excellent soir à toi. Bonne journée demain. Bon dimanche en famille avec ta petite, la famille, et puis Gonzalo, ton voisin. Dans un instant, le carton de Manchester City face à Watford. 8-0 avec un record. 5-0 en 18 minutes de jeu. Ouais. Avec un triplé d'un joueur que j'adore moi personnellement, Bernardo Silva, exceptionnel. Julien Laurent sera avec nous également. Paulo Breitner pour parler d'un grand Robert Lewandowski, l'ami de Ludovic Obraniak en sélection polonaise. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Nicolas Jamain.
Et Ludovic Obraniak. Et Jonathan Macardy. Oui. 23h45. Qu'est-ce qui t'arrive?
Non, je suis content.
Pourquoi tu mets toujours des t-shirts XS quand tu viens à l'after le week-end?
Tu aimes déjà.
Ludo, il met du XL, tu vois.
Ça s'est rétréci au lavage. Petite cafouillage.
Vous pouvez voir sur RMC Sport News d'ailleurs.
Cafouillage.
L'Angleterre, la première ligue avec le premier carton, la première rouste de la saison. Salut Julien Laurence.
Salut à tous.
Salut Jules. On avait parlé de City la semaine dernière qui avait été battu. Et on va parler de City aujourd'hui qui a mis 8-0 à Watford. Triplé de Bernardo Silva, début de Agüero, Mahrez, Kevin De Bruyne, Otamendi, David Silva. Avec un record dans ce match, Julien, en 18 minutes.
Effectivement, ils ont été la première équipe de l'histoire de la Première Ligue à marquer donc 5 buts en 18 minutes. Mener 5-0 après 18 minutes, c'est quand même assez incroyable. On attendait une réaction de la part de City, même s'il y avait eu le match de Ligue des Champions au Shakhtar Donetsk en milieu de semaine. Vous avez déjà très bien joué, ils avaient maîtrisé sans aucun problème la rencontre et gagné tranquillement. On attendait de les voir en championnat à domicile contre l'équipe de Watford qui vient de changer d'entraîneur, mais qui a quand même, on l'a vu contre Arsenal le week-end dernier, quelques ressources. Et sincèrement, depuis l'arrivée de Pep Guardiola, je pense que c'est facilement la meilleure performance, ou en tout cas dans les trois meilleures performances de cette équipe de Manchester City. Ils ont été incroyables, sincèrement, du début à la fin, dans le mouvement, dans le jeu avec ballon, dans les dédoublements de passes, dans les jeux en triangle, dans les diagonales, dans tout ce que tu veux, dans les inspirations de Kevin De Bruyne qui a été exceptionnel, même oui, s'il oui. Il a marqué finalement qu'un but et deux passes d'aise, mais c'était une masterclass.
Apparemment, c'est masterclass, ouais.
Ah, c'était incroyable, sincèrement. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il se passait quelque chose. La qualité des centres, tu sais, ces centres fouettés là, de l'intérieur du pied, qui brosse et qui met exactement entre le gardien et le dernier défenseur qui est face à son but déjà, qui est face à son gardien. C'est incroyable. À chaque fois, c'est au millimètre. Et puis après, comme tu l'as dit, hein, le premier hat-trick de sa carrière pour Bernardo Silva, qui fait un match lui aussi incroyable. Mais tout le monde était au diapason. Benjamin Mendy a joué 45 minutes.
Il a été comment?
C'était très bien pour lui. Il a été plutôt bon, même si à un moment, la seule occasion que Watford a, c'est à 1-0. Et c'est une mauvaise passe de Mendy dans l'axe, plus ou moins, on va dire, qui part ouais. en contre-attaque après pour Watford. Et Deulofeu peut marquer. Il peut égaliser. Ça n'a rien changé, mais c'est vrai que c'est seul un petit bémol de la performance de Mendy. Sinon, il a plutôt été entreprenant. Il a joué assez haut sur son côté gauche.
Il a amené à reprendre sa place ou pas?
Il part avec un petit peu de retard sur Zinchenko, qui a été, ouais. Qui a quand même été solide à ouais. ce poste-là. Pour Guardiola, et je pense que Guardiola oubliera pas ça, mais ça donne une option supplémentaire à Guardiola, et tu as quand même vu hier que si elle revient à son meilleur niveau, au niveau de la puissance qu'il peut dégager par rapport à Zinchenko, par exemple, et même dans la qualité des centres et les appels qu'il peut faire, etc., ça peut quand même être un bon bonus pour cette équipe de City jusqu'à ouais. la fin de la saison, s'il reste fit, quoi.
Claude Puel était l'invité de PL Zone, hein, notre émission de Première Ligue sur RMC Sport 1. Bon, il a été dithyrambique vis-à-vis de Bruyne. Pour lui, c'est Ballon d'Or. Il doit être Ballon d'Or. Il aurait dû l'être il y a 2 ans. Le problème, il l'a pas été. Modric l'a été. Il doit être le suivant, le prochain Ballon d'Or, s'il réussit avec City, évidemment. Cette saison en Ligue des Champions. Tu préfères plus De Bruyne au hasard, toi, Ludo?
Bon, c'est pas du tout la même chose. Hein. T'en as un qui est un maestro, et puis t'en as un qui est un courant d'air, quoi. Tu vois, Eden, il est plus dans la provocation, l'élimination. Kevin De Bruyne, il a la science du jeu, c'est l'incarnation du QI football, c'est-à-dire qu'il est dans cette lignée de joueurs qui ont déjà savent déjà ce qu'ils vont faire avant d'avoir reçu le ballon, qui jouent toujours juste, ouais, qui ont des passes que personne ne sait faire.
Soyeux, tu sais, il caresse,
mais quand tu te rends compte que t'as non seulement
aime bien ça, toi, hein.
T'as De Bruyne, t'as Bernardo Silva et t'as David Silva et Mahrez dans la même équipe.
Mahrez qui fait un super début de saison, Julien, également aussi, hein.
Ouais, qui fait un bon match. Après, moi, je trouve que ce qui est intéressant chez Mahrez, c'est que c'est finalement, en tout cas pour moi, c'est pas du tout un joueur que Guardiola aime. C'est un joueur qui reste quand même, malgré tout, assez individualiste.
C'est un joueur
d'instinct. Encore aujourd'hui. C'est un joueur d'instinct, mais c'est pas vraiment les joueurs à Guardiola. Guardiola, il aime que tout soit planifié, que tout soit programmé, que tu joues d'une certaine manière, que t'aies tu vois, dans ton système de jeu, que t'aies la circulation de balles d'une certaine façon, et Mahrez, c'est pas ça. Mahrez, comme tu dis, c'est à l'instinct. Il y va, et lui, à faire un crochet, deux passements de jambes. Après, le reste, si t'avais un mec qui était un peu libre ou pas, lui, il s'en fout un peu, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, et je pense que c'est ça qu'aime aussi Guardiola chez Mahrez, c'est qu'il lui apporte quelque chose d'un petit peu différent, un peu de folie parfois, et ça fait du bien dans le
ouais. Et il est discipliné, tu vois, dans l'état d'esprit de Guardiola. Julien, il est quand même assez discipliné sur ses replis défensivement, et c'est quand même sérieux, quoi.
Ok,
ouais, ça dépend des matchs, quoi.
Merci Julien. Excellente soirée à toi.
Merci à vous. Et juste pour finir. Vas-y. Parce que demain, c'est assez incroyable la journée qu'on a. On a 4 matchs à Londres.
Ah oui.
4 matchs de première ligue, tous à Londres. Chelsea, Liverpool surtout, mais on a un match à Crystal Palace, un match à West Ham et un match à Arsenal aussi. Seule ville au monde, bien sûr, hein, qui peut avoir 4 matchs la même journée.
Et Buenos Aires
dans une division, bah oui. Avec peut-être Buenos Aires.
Allez,
la seule équipe en Europe.
Merci Julien, excellente soirée ouais. à toi. Polo Breitner est
demain,
avec nous. Salut Polo.
Bonsoir messieurs.
Salut Polo.
Ouais, grosse journée également en Bundesliga. Le 4-0 du Bayern. Moi, ce qui m'interpelle, c'est Lewandowski. Doublé ouais, encore une fois.
En fait, c'est assez intéressant parce qu'on a eu vraiment pour la première fois peut-être de la saison un Bayern qui a été conquérant et qui monte en puissance. Kovac a procédé en fait à un léger turnover après être resté, on peut le dire quand même très clairement, un petit peu sur notre fin par rapport à la victoire en Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge. Cette fois, c'est Coman et Thiago Alcantara qui se retrouvent sur le banc. T'as Gnabry et Boateng qui rentrent. T'as 3 Français titulaires au départ contre un Cologne Boateng qui était supposé en mode défensif puisque Anthony Modeste, le Français, était aussi sur le banc, mais qui va craquer dès la deuxième minute avec un nouveau festival d'un petit Polonais, mon cher Ludo, qui est il est légèrement inconnu. Hein, il s'appelle Lewandowski.
Quoi ses stats,
C'est 9 buts en 5 rencontres de Bouli depuis l'ouverture du championnat. Mais il faut dire qu'il est très bien assisté par un certain Allemand qui s'appelle Joshua Kimmich, qui a été repositionné par Niko Kovac, notamment en milieu défensif. Mais il fait tout parce qu'il devient monumental par son volume de jeu. Et je crois que c'est assez intéressant ce qui se passe. C'est-à-dire que ce 4-0 est quand même la prestation la plus évoluée. Donc je sais bien que Cologne monte de seconde division. Sauf que tout le monde oublie que Cologne a réalisé 115 millions de chiffre d'affaires en seconde division l'année dernière. Donc c'est pas neutre, si vous voulez, cette victoire.
Et Coutinho aussi a marqué. Et enfin, ça, il prend les buts.
Alors oui, c'est intéressant parce que Lewandowski, en fait, lui a laissé la place pour le pénalty. Et Coutinho, qui a dû d'ailleurs retirer son pénalty parce qu'il y avait des petites fautes, on va dire, les joueurs rentrent un peu facilement dans la surface de réparation. Il a marqué son premier but. Je reste encore un petit peu sceptique sur Coutinho parce que je trouve qu'il tricote un petit peu trop par rapport à une équipe, on va dire, allemande. Et puis surtout, je prévois une petite polémique qui va arriver puisqu'un Thomas Müller est toujours sur le banc alors qu'il est très très bon depuis le début de saison. Donc, Niko Kovac a très bien clarifié la situation en disant que Müller plus Coutinho, c'était trop offensif pour le Bayern Munich. Mais on va dire qu'on va prévoir peut-être quelques petites discussions dans les prochaines semaines.
Et juste, Cuisance, comment il est rentré? Tu l'as trouvé Cuisance?
C'est le match est joué parce qu'à partir de l'heure de jeu, en fait, Yusebue est expulsé du côté de Cologne. Ouais. Donc c'est... Si tu veux, moi, le problème de Cuisance, c'est qu'il se plaignait de pas avoir tant de jeux à Mönchengladbach. Je le vois pas beaucoup en avoir à Munich. Donc, il est rentré, c'est bien. Il commence à s'intégrer dans le groupe. Maintenant, il y a rien d'exceptionnel pour l'instant. Et encore une fois, le match était joué, donc c'est pas vraiment. Je sais pas si cette performance en fait est liée à un Bayern qui augmente vraiment son volume de jeu ou si c'est Cologne qui a tout simplement explosé.
Et Lucas a joué à gauche.
Lucas a joué à gauche évidemment parce qu'Alaba est blessé, donc ça permet encore une fois à Pavard de jouer. Moi qui disais qu'il allait être remplaçant toute la saison, en fait le turnover instauré depuis le début de saison depuis Niko Kovac permet à Pavard d'en profiter, d'autant plus qu'il a fait remonter encore une fois Joshua Kimmich au milieu de terrain. Maintenant j'attends encore quelques semaines pour voir le véritable 11 titulaire. Là je pense que, n'oublions pas, le groupe du Bayern n'est pas extensible. Il y a en plus deux blessés, Goretzka qui va revenir à l'allemand et Joshua Alaba qui est blessé pour l'instant. Donc ça permet à donner du temps de jeu à différentes personnes, dont Tolisso. Mais donc c'est bien. Ça permet aussi de préparer différentes possibilités techniquement parlant et tactiquement. Maintenant, nous nous emballons pas sur ces Français qui sont titulaires pour l'instant. À part Coman et Lucas Hernandez, je ne vois pas Pavard et Tolisso forcément titulaires.
Devenir des cadres au Bayern
cette saison.
Bon, la prochaine fois, on parlera du RB Leipzig qui ne lâche rien, toujours en tête. Victoire 3-0 sur la grosse pelouse. Ça devient très intéressant, le RB Leipzig qui s'est baladé également en Ligue des Champions. Toujours devant le Bayern Munich. C'est ton pote.
Exactement.
Ou pas,
juste une petite info. Upamecano, titulaire pour la première fois, qui revient de blessure. Les Français de Leipzig, les petits jeunes, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ah, Upamecano, c'est un bon joueur.
Une note sur 10 sur Lewandowski en camarade de vestiaire, Ludo.
5
sur 10, ok. Merci Polo.
Salut les gars.
Merci Ludo. Gars. Merci Jonathan. Excellente soirée à vous. L'After revient demain avec Gilbert Rébois, bien sûr. Daniel Riolo, excellente soirée à tous. Merci Arthur Robert et à Fernando Agnino Torres en régie.
Ciao.
RMC. L'After Foot.
Hello, I'm Maisie Adam, and you're about to listen to a set performed by me at the Cavendish Comedy Club in London. Oh, I'm terrible with my money. I am. I'm absolutely terrible. Like I can't play Monopoly because it hits too close to home. Honestly. Because what it is just going around London going, can't afford that, can't afford that. I've got nothing in the bank and I can only dream of winning 50 quid in a beauty contest.
You might think you're terrible with money, but here's something. Did you know it's easier to save if you do it the day you paid? Payday, save day. Building a society of savers nationwide.